Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode numéro 7. Sans transition aucune, je procède au rappel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Si vous souhaitez nous faire parvenir des informations, nous poser des questions, nous faire parvenir des témoignages vécus par vous ou des proches à vous, tout simplement nous interpeller sur tel ou tel point, n'hésitez pas à nous écrire donc à l'adresse que je viens de donner. Nous appelons aussi traditionnellement nos auditeurs et lecteurs à nous soutenir, exclusivement par l'usage de crypto-monnaies et en l'occurrence de Monero. Monero est une crypto-monnaie qui garantit l'anonymat des transactions et qui garantit aussi bien l'anonymat du destinataire que de celui qui envoie l'argent. Nous cherchons à créer une section commentaire qui tienne la route, quelque chose de propre. Donc nous demandons particulièrement ces dernières semaines ceux qui le veulent, de nous encourager avec un don, bien sûr, par définition, un don est volontaire. Donc c'est selon ce que vous voulez ou pouvez. Je présente maintenant les membres de cette semaine, en sachant que certains quitteront l'émission en cours et d'autres arriveront en cours, c'est flexible. On va commencer avec Poporovitch, qui nous fait plaisir d'être avec nous. Salut Poro.
Shalom alaikum à tous, je suis là, présent.
En avant de... Guingamp
hein. Ah en oui, Guingamp, faut l'avant de Guingamp, c'est loin.
En avant de Guingamp, en avant les nègres. MacDav est aussi avec nous pour la première partie de l'émission. Salut MacDav, j'espère que tu vas bien MacDav.
Salut à tous, salut les amis. Bon écoute, je crois que j'ai chopé un virus, j'espère que c'est pas le virus chinois.
Ah, Corona. Mais,
Ouais, enfin, pas, c'est pas la binouze de Jacques Chirac. Hein.
C'est certainement pas. Fulbert nous fait le plaisir d'être avec nous. Les travaux ont repris sur sa cave. Il me certifie qu'elle sera fonctionnelle d'ici 6 mois à 1 an. Je ne désespère pas. J'ai des clients. Fulbert, comment vas-tu?
Ah ben, je vais bien. Merci Gandalf. Bonjour et bonjour à tous.
Diabolix est aussi avec nous cette semaine, Diabolix qui a pris ses marques dans l'émission et qui rencontre, comme j'ai eu l'occasion de le dire, un réel succès auprès de nos auditeurs. Comment vas-tu Diabolix?
Hi Hitler, meine liebe Freund. Ça va très très bien.
Il se radicalise Diabolix.
Non.
Allez messieurs. Je vous propose de commencer sans aucune transition notre émission avec la première rubrique courrier des lecteurs. Premier courrier, un courrier assez long. Derek vient d'arriver dans l'émission. Salut Derek, ça va? T'as la myxomatose, Derek?
Oui, la myxomatose. Hein. Il a failli pas avoir de Derek aujourd'hui.
C'est quoi ça? Ça m'a dit des lapins, ça?
Ouais, les yeux qui gonflent et tout. C'est assez marrant.
Putain, attends, mais t'as des allergies au pollen au mois de février, c'est quoi ce bordel? T'es où, là?
Bah, il fait très beau, hein, par chez nous.
Ça s'est passé comment, ton voyage en Chine?
Alors, messieurs, je propose de commencer. Premier courrier de notre première rubrique. Cher démocrate participatif, bonjour, je vous écris pour vous témoigner de mon évolution. Un jeune Français passé du communisme au fascisme le plus virulent. Je vous écris également pour que vous me remontiez le moral en me donnant de l'espoir, car c'est ce qui nous fait vivre et je dois vous avouer qu'en ce moment, je suis un peu à court. Tout d'abord, je me présente. Je viens d'une petite ville pauvre de la côte atlantique et d'un milieu plus que modeste. Père enchaînant les cancers et autres maladies jusqu'à son décès récent. Mère au foyer sans qualification. Aucun patrimoine, aucun grand-parent. Je suis donc ce que l'on appelle un jeune blanc privilégié. En tant que pauvre, très politisé, j'ai tout d'abord été le plus rouge des communistes avec une forte conception patriotique du communisme, un peu à la Staline. On a un pays, on flingue les bourgeois, on répartit des richesses pour que le peuple puisse vivre dignement de son travail sans une extorsion abusive de la plus-value capitaliste qui ruine les travailleurs. Conscience politique simpliste, imparfaite, mais conscience politique quand même. Je n'ai d'ailleurs jamais rechigné à échanger avec des amis sympathisants du Front National avec qui je pouvais me retrouver sur certains points, bien que j'estimais qu'ils abusaient carrément lorsqu'ils tenaient des propos xénophobes, voire racistes. Mais ça ne m'empêchait pas de chercher à les comprendre. Mon meilleur ami, un fils de paysan aux abois grâce à l'UE, était d'ailleurs très à droite. À 18 ans, je suis allé passer quelques années en fac de droit, parallèlement salarié à plein temps dans un lycée professionnel et général. La population était majoritairement blanche et l'expérience m'a montré que les trois cafres du bahut étaient toujours les plus turbulents. Les étudiants au lycée professionnel étaient en général bien plus terre-à-terre, posés, matures et bien dans leur tête que ceux du lycée général. Oui, c'est très juste comme observation. Mes collègues m'épuisaient plus que les élèves des CPE qui modifient les résultats des élections de délégués d'internat, des surveillantes qui échangent des caresses le soir avec des élèves, des membres du personnel qui volent de grandes quantités de bouffe dans les frigos du self, des histoires de cul à n'en plus finir entre les profs. Ce quotidien chronophage, ajouté à l'énorme quantité de travail demandé en fac de droit et au stress intense qui l'accompagnait, ne m'ont pas permis de me donner à fond dans mes études. Les professeurs des cours magistraux étaient des bourgeois de droite style sarkozyste, ouvertement homosexuels pour au moins la moitié d'entre eux, et les professeurs des travaux dirigés étaient presque tous africains. Je pouvais apprendre mes cours par cœur pendant des dizaines d'heures, le moindre nègre avait des notes supérieures aux miennes, c'était à n'y rien comprendre. Après avoir souffert des années à essayer d'aller au bout de mes études, enchaînant les petits boulots en plus de mon travail, faisant des saisons pendant les vacances scolaires, je me suis rendu à l'évidence. Un diplôme en droit n'était pas à ma portée. Je précise que pendant ces années, j'ai eu un bref passage de quelques mois au Parti communiste français, où ça s'est très mal terminé puisque je n'y ai rencontré que des vieux lâches, des jeunes paumés homosexuels en surpoids, voire obèses, et des bougnoules à ne plus savoir qu'en foutre. On était loin de l'image de l'armée rouge. Aimant beaucoup la philosophie, sachant qu'un diplôme était assez accessible dans le domaine, j'ai pris la décision de déménager à Montpellier pour y étudier cette noble discipline. Avec peu d'argent, je n'ai pas trouvé de travail là-bas, 80€ de budget nourriture par mois, j'étais descendu à 60kg pour 1m80 en fin d'année. J'ai dû habiter dans un quartier pourri à côté d'une mosquée, chez une vieille veuve qui avait déserté depuis longtemps avec toutes ses copines du quartier et qui louait toutes leurs baraques à des étudiants en galère, sachant qu'elle ne pouvait les revendre qu'une bouchée de pain. En effet, en arrivant, une vieille qui louait la maison d'à côté m'a prévenu. « Pensez à mettre l'alarme quand vous partez, on se fait tous cambrioler tous les ans. » J'étais prévenu. Le quartier était pourri, la route éclatée, toute une rue avait été privatisée par les crouilles qui avaient mis des carcasses de bagnoles à l'entrée pour que personne n'y pénètre. Point de boulangerie ou de charcuterie, uniquement des kebabs, des boucheries halal, des dealers tous les 30 mètres, et surtout, des nègres à perte de vue. Souvent, des mariages musulmans avaient lieu, ça klaxonnait, faisait chauffer les grosses berlines, faisait des you-you, grillait les feux. Les seules fois où les flics venaient, c'était pour aligner les étudiants qui étaient mal garés. Une fois, j'ai voulu acheter une baguette. La vendeuse, une grosse truie voilée, m'a refilé le pain de la veille. J'ai tout de suite compris. Quand j'ai voulu raconter cette histoire à des militants de lutte ouvrière qui étaient passés à ma fac, mon interlocutrice, une boumeuse prof de français, m'a répondu « Bah, la prochaine fois, t'auras qu'à demander du pain semoule !» C'est là que j'ai senti grandir en moi cette haine, ce sentiment de solitude immense, cette infinie tristesse d'un homme qui se sent trahi par son propre peuple, sa propre race. Après m'être rapproché par Facebook d'une femme que j'ai toujours aimée, une jeune Aryenne brillante, j'ai décidé de la rejoindre dans l'une des villes les plus rouges de France, à Nantes, pour poursuivre mes études que je réussissais avec succès. J'ai donc arrêté de fumer, je me suis mis au sport, j'ai pris plus de 20 kilos de muscle en 2 ans, et me voilà à près de 85 kilos de solidité aérienne. Me considérant comme quelqu'un de plutôt normal, j'ai une vie sociale et des amis. Tous sont des ouvriers, des anciens militaires qui font des petits boulots ou des indépendants, mais je n'ai aucun ami fonctionnaire ou étudiant. Je ne fume pas de joint, je ne bois pas ou peu, je m'habille modestement mais sobrement. Point de couleur excentrique, de sarouel ou de jogging à la con. Et mon inversion totale pour le capitalisme m'a logiquement amené à comprendre que les nègres, les bougnoules et les homosexuels sont les sujets parfaits d'un régime capitaliste ultra-libéral et que le libéralisme de gauche nourrissait celui de droite pour le plus grand profit des juifs, ce qu'avait d'ailleurs compris notre bien-aimé Führer. La charité, la famille, le don désintéressé, l'amour courtois, tout disparaît derrière l'appétit consumériste nègre et la frivolité colorée des sodomites. Pour l'expliquer, je n'aurai qu'à décrire la fac de Nantes. Une fois, je me suis rendu à une assemblée générale mise en place par des étudiants antifascistes. 5 profs en charge, entre autres, de ma promo étaient présents. 3 juifs, une féministe de combat qui revenait d'Amérique et un étranger homosexuel affirmé. Je me suis déjà fait virer de force d'une AG car j'étais opposé au blocage de ma fac. Quand j'en ai parlé à l'administration, elle a demandé aux vigiles, 2 énormes nègres, de ne plus me laisser entrer dans l'amphithéâtre. Des histoires de viol circulent dans ma promo sur des meufs bourrées et droguées qui se seraient fait troncher par Jean Écolo, bourré aussi, mais qui regrettent le lendemain, des transsexuels en veux-tu en voilà, des cours de méthodologie qui sont en réalité des cours de propagande gouvernementale où on nous enseigne que la tolérance est comme la liberté d'expression, elle a des limites, et que ne pas leur mettre de limites peut nous faire entrer dans le fascisme.
Oula, oula.
On étudie des connasses américaines féministes, on se branle sur du Sartre, on fait de la bioéthique accompagnée souvent d'envolées lyriques en hommage à l'avorteuse juive Simone Veil, c'est l'enfer sur Terre. Alors je confirme, parce que j'ai d'autres échos de la fac de Nantes, c'est effectivement l'enfer sur Terre. Cette fac est si pourrie qu'on ne peut même plus pisser tranquille. Les féministes ont envahi nos chiottes pour des raisons égalitaires. Elles ont tagué des chattes partout. Du coup, maintenant, je pisse partout, exprès, juste pour les emmerder. On guerroie avec les moyens qu'on a. L'administration a offert gracieusement à un groupuscule antifasciste la plus grande salle du bâtiment pour qu'il puisse stocker le matériel avec lequel il dégrade la fac le soir. Des tags sur tous les murs, du style « j'ai un rêve », « voir la France dans un tas de cendres ». « J'ai le sourire comme à l'enterrement d'un flic » ou encore « je pisse sur les hommes 6 ». Facho hors de nos facs. C'est pas très original quand même. Le disque est rayé un peu quand même. Aujourd'hui, maintenant je vous le dis, je suis fatigué d'un point de vue nerveux. Malgré mes bonnes notes, je décide de partir en apprentissage dans le bâtiment. La vue d'un étudiant de gauche me donne des envies terribles. Depuis plus d'un an, je livre des kebabs avec Uber Eats. J'entends parler arabe et guinéen toute la journée. Quand je vais à ma salle de sport, les seuls blancs que je vois sont quelques vieux qui s'entretiennent et des putes à nègres avec leurs nègres. Mais où est passé mon peuple? Où sont les jeunes Français de ma race? Pourquoi ne se manifestent-ils pas? Tous les jours, des femmes sont violées dans ma ville. Des jeunes sont poignardés pour quelques euros et un téléphone. Des gens se font tabasser. Et il ne se passe pas un mois sans qu'au minimum une fusillade n'éclate. Alors, je me suis rapproché de la fraternité catholique la plus intégriste possible. Des bourgeois, des lâches, ils sont tous grisonnants. Ils ont hâte de crever pour rejoindre leur dieu. Ils fantasment à l'idée d'être crucifiés comme lui. Ils n'ont aucune volonté de combattre, ne serait-ce que pour les idées. Je me suis tourné vers l'Action française. Un milieu rempli de boomers lâches et de jeunes catholiques émasculés sans aucune conscience raciale, sans aucune volonté de vivre. Ils attendent que Dieu fasse le boulot à leur place. Alors je les ai laissés derrière moi, eux aussi. Je suis si fatigué nerveusement, ma ville est un puits à orques infâmes. Des grosses putes nègres à moitié à poil font le trottoir dans tout le centre-ville. Des bougnoules foutent la merde dans tous les trams. Ils hurlent, traitent les meufs de putes, essayent de les embrasser quand elles passent près d'eux. Et personne ne réagit. Le problème est racial et personne ne veut l'admettre. J'ai le sentiment d'être fou, de ne pas être adapté à mon monde. Ma copine me dit d'arrêter d'y penser, de faire ma vie au jour le jour sans me prendre la tête. Mais je n'y arrive pas et je ne sais plus quoi faire. J'ai quelques amis comme moi et ils sont aussi paumés que moi. Ils sont sains d'esprit et de corps, travaillent tant qu'ils peuvent, mais nous sommes tous comme des lions qu'on aurait jetés d'un hélicoptère au milieu de l'océan. On se débat, on regarde tout autour de nous, mais on ne voit que l'océan à perte de vue, et on a le sentiment de n'avoir d'autre choix que celui de se noyer. À perte de vue, nous avons notre défaite assurée. Notre dégénérescence morale, intellectuelle et raciale, la fin de tout ce qui a pu être noble et beau un jour, la fin de tout ce qui a pu être nous. Alors je vous demande, chers démocrates, comment faites-vous pour garder la tête sur les épaules? Comment faites-vous pour rester droit dans vos bottes, pour ne pas vriller? Tout ce que j'ai trouvé, c'est le sport, mais ça n'est pas une solution à long terme, car je sors désormais de la salle encore plus énervé que quand j'y suis rentré. La dernière fois, un arabe a tabassé un vieux boomer blanc qui lui avait demandé de baisser le son de son téléphone. L'arabe l'a immédiatement déboli en le traitant de raciste. Une dizaine de gnoules m'ont alors regardé pour voir si je réagissais, et je n'ai rien pu faire. Qu'aurais-je pu faire face à 10 Untermenschen? Il m'aurait démoli en me traitant de raciste, tout pareil. J'aurais été incapable de retourner bosser le soir, ça aurait été une catastrophe. Je suis allé signaler à l'accueil, tenu par un arabe, ce qui s'est passé, et il m'a dit qu'il s'en occuperait. J'ai ensuite revu le blanc, cinquantenaire, je lui ai dit que j'avais signalé ce qui s'était passé, il m'a répondu « Après que tu sois parti, il m'a appelé, on s'est excusé, y a pas de problème. Le mec m'a traité de raciste, c'était abusé, pourtant j'ai toujours voté à gauche, mais j'aurais pas dû l'importuner. » On s'est excusé.
Oh là 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 la vache. Oh putain.
On s'est excusé. Ce vieil enfant de putain de gauchiste de merde, ce sombre traître à sa race puant, cette pourriture ignoble qui n'a même pas levé la main sur son agresseur, s'est excusé auprès de cette ignoble créature que fut ce crouille dégueulasse à mèche blonde. Pour finir, quand l'agresseur est parti, il a échangé un sourire avec le taulier de la salle avant de lui faire un check, appliquant ainsi une solidarité raciale que seuls les gens comme nous peuvent observer. Il faut se rendre à l'évidence, la race française a été sélectionnée depuis 2 siècles pour être une sous-race d'esclaves, bon qu'à torcher le cul des juifs et des nègres. Les femmes n'aspirent qu'à se faire engrosser par cette sous-race infecte, et les hommes ne souhaitent que les regarder faire avec le sourire attendri du candole masochiste de gauche. Fonder une famille, si c'est risqué, reste l'Europe de l'Est, mais fonder une famille dans l'Est reviendrait à disparaître derrière la culture slave. Je suis complètement perdu. On appelle donc à votre aide. Comment faites-vous pour prospérer tranquillement dans vos vies, dans le calme et la bonne humeur? Est-ce seulement possible? Les Allemands sont étouffés sous la propagande juive et se font métisser à vitesse éclair. Ils ne seront jamais plus la source d'un sursaut européen. Oula, faut pas aller trop vite en musique. Hein. Je ne vois aucun espoir en Europe ou dans le monde en général. Je vous souhaite le meilleur, vous êtes un bol d'air frais pour de nombreux d'entre nous. Dans mon entourage, nombreux sont mes amis qui vous écoutent et vous soutiennent. Je tiens à souligner votre courage et l'immense respect que j'ai pour vous, notamment ceux qui ont des grosses emmerdes judiciaires. Si nous arrachons la victoire un jour, on vous érigera des statues. De ce salut européen de lumière, je vous salue, le bras tendu, vers un monde meilleur, un monde où nos ennemis ne seront pas, vers notre victoire totale. Dans ce monde, nous nous retrouverons et nous serons libres de toute persécution et tout le génie de notre race pourra s'épanouir pour la paix et la tranquillité de nos familles. Force à vous, honneur à vous, fidèlement vôtre, Sieg Heil, et c'est Uber Pfaff. Gros courrier.
Oui, gros alors, courrier. Précision quand même par rapport à l'état de l'Allemagne qui ne pourrait pas se relever parce qu'il y a des putains nègres. Weimar, c'était autrement plus violent au niveau de dégénérescence de la race. Hein. C'est-à-dire que tu avais de la zoophilie carrément hein,
à Berlin toute la population se prostituait, je veux dire, il faut comprendre ça hein, c'est...
oui non mais la prostitution mais puis tu avais vraiment de la zoophilie pure ça baisait avec des chiens quoi hein, c'est voilà. Donc, non, il n'y a pas, enfin, là, de prévoir ce que peut, les sursauts que peut avoir une race par rapport à un stimuli extérieur, c'est, bon, bien malin celui qui est capable de prévoir ça.
Mmh.
Donc, faut pas non plus être trop pessimiste là-dessus. Hein.
La conscience des gens a changé en l'espace de quelques années. Dites-le vous aussi, nous on le voit, notre discours porte.
Bah, c'est la réalité qui porte. Enfin bon, je vais articuler un début de réponse, et puis j'invite nos intervenants éventuellement à faire part de leur propre réaction aussi. Alors il y a plusieurs choses. Bon déjà c'est quelqu'un. Alors bon déjà il vient d'une catégorie populaire, ça l'a beaucoup marqué. Il vient de la gauche, il se rend compte que finalement gauche droite, enfin dans les structures, dans les organisations en fait c'est décati, il y a rien, il y a pas d'énergie, il y a pas de souffle. Et mais il a une conscience sociale. Bon, ça, c'est important. Je pense que ça commence déjà par ça. Et ensuite, il a développé une conscience raciale confrontée, comme un certain nombre de jeunes Français de race blanche, à l'enfer interethnique. Hein. Bon. Donc, quelque part, double sensibilité, sociale et raciale. Et ça en fait, en général, les militants les plus tenaces, en fait. Hein. C'est souvent les militants les plus tenaces. Alors, comment dire ? Déjà, je vais commencer par la fin de son, peut-être de son courrier, quand il dit bon, « comment faites-vous ?» etc. Déjà, comment dire ? C'est normal de se sentir impliqué à titre individuel, personnel, dans quelque chose, et de vivre très mal une situation de crise, d'être affecté personnellement, émotionnellement. Mais en même temps, avec l'âge, l'expérience et aussi avec la volonté, en fait, on apprend à dominer ses émotions, on apprend à dominer son tempérament. Comme dit l'expression, c'est le calme des vieilles troupes. Avec l'âge, en fait, on se fait le cuir, on prend beaucoup de recul sur les choses, on n'est plus au taquet. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aussi déterminé, aussi enragé, mais comment dirais-je, on a vraiment un recul. Donc il y a aussi il y a cette question d'âge. Donc je pense que notre auditeur est quand même assez jeune. Donc effectivement, quand on a entre 20 et 25 ans, on a plein de fougue et on tolère aussi probablement moins facilement la frustration. Donc ça, avec le temps, en fait, on se forge une patience. Je pense qu'il faut pas que notre auditeur s'alarme de trop là-dessus, en ayant le sentiment d'une impuissance, quoi. Alors il dit qu'il est tenté par des actions un petit peu désordonnées, etc. Ça mène à rien. C'est même le pire, en fait. C'est-à-dire que les exemples sont très nombreux, même à Nantes, où quand quelques jeunes blancs se sont défendus contre la merde, que ce soit des crasseux d'extrême gauche, des migrants ou autres, c'est la presse rouge les traîne dans le caniveau, les antifas en font des caisses, etc. Enfin, on connaît, quoi. Et au final, les gars qui sont condamnés, à part des emmerdes, n'en retirent rien à titre personnel. Donc ça, je veux dire, peut-être évacuer une frustration pendant l'espace d'une heure, mais ça ne va rien résoudre. Au contraire,
En plus, le risque, c'est que s'il se retrouve en tôle, il va se retrouver en tôle avec uniquement des bougnoules. Bonne chance.
Bah après, là, en général, les types sont mis à l'isolement, etc. Bon, c'est pas trop ça. C'est, disons que l'action violente directe et désordonnée ne permettra pas de résoudre quoi que ce soit à titre personnel.
Notre ami vient des milieux communistes, quoi, où il voit tout de suite les actions globales, l'État, etc. Je l'encouragerais à mettre un petit peu de libéralisme dans sa doctrine et dans sa vie peut-être aussi personnelle. Libéralisme, pas au sens libéral, où l'entend les Anglais. Libéralisme, ou moins d'État, liberté de faire un petit peu ce que tu veux, notamment de discriminer ce que tu veux, et de se construire toi, soi-même, plutôt que de vouloir faire des actions collectives. Eh bien, tu as une nana, tu commences à faire des études, fais-toi une situation déjà, et puis peut-être fais-nous des petits blancs qui auront besoin d'avoir des parents pour les élever. Ça serait, je pense, beaucoup mieux que de chercher à tabasser des clodos.
Bah, le problème, c'est que, c'est qu'il vit dans une fac de gauchistes infectes, et tu subis ces gens en permanence. Donc après, un être humain a ses limites aussi. Il y a quand même des limites, quoi. Et on parle quand même d'un asile psychiatrique. Quand on parle des facultés françaises de lettres, hein, de sciences humaines, on parle d'asile psychiatrique.
Oui. Donc, enfin, Nantes, ça m'a quand même l'air d'être un cas particulier. dans
c'est particulier.
Ça vaut Toulouse et ça vaut Rennes, hein. Je veux dire, ce sont des facs.
Oui, mais ça fait Montpellier, Rennes, ouais. Nantes. Oui, c'est.
Alors,
ce
que je dirais, c'est que bon, à notre auditeur, c'est que le contexte dans lequel il évolue actuellement ne contribue pas du tout à son équilibre psychologique. C'est bien compréhensible. Et ensuite, le contexte géographique, c'est-à-dire Nantes, de vivre dans la ville de Nantes, qui est une ville effectivement qui a été très considérablement dégradée ces 20 dernières années. Donc, il y a un petit peu c'est la double peine, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'est l'univers gauche, la dystopie gauchiste, hein, d'Evergreen sauce nantaise à la fac, et les rues de Nantes où vous avez des races improbables, des nègres, tout à fait. Alors, je pense que, sauf s'il veut terminer ses études, mais il faut qu'il trouve un moyen, je pense, de les terminer et de sortir de ça. Il ne faut pas rester dans un environnement qui est insupportable pour ses nerfs. Hein, je veux dire, à mon avis, d'ailleurs, il se sentirait beaucoup mieux s'il était un petit peu à l'écart de Nantes-Ville, quoi.
Ouais.
Il peut changer de crèmerie. Hein.
Bah, disons que je pense qu'il veut terminer ses études. Donc ça, c'est un objectif pour lui, c'est important. Donc il veut terminer ses études. Mais une fois qu'elles sont terminées... Je pense qu'il faudra effectivement changer d'endroit, quoi. Ça, c'est très, enfin, de lieu de vie, j'entends. Je dis pas d'aller s'enterrer quelque part dans une campagne dans le Cantal. Je veux dire d'être dans un environnement où on n'a pas toutes les races de la terre autour de soi. Alors, dans l'émission, dans ce secteur-là, on a parlé de la Vendée, il y a quand même des zones blanches tout autour. Peut-être que notre ami, notre camarade, n'est pas fait pour être dans un milieu urbain, tout simplement. Tout simplement. Il n'est peut-être pas fait pour être en prise directe avec les masses urbaines dégénérées, et que en restant dans ce milieu-là, dans cet environnement-là, en subissant cette influence et ces agressions permanentes, ça lui fait plus de mal que de bien, et de loin, et que peut-être une rupture physique avec ce type d'environnement lui ferait le plus grand bien. Donc peut-être d'aller vers une ville... une commune beaucoup plus modeste, pas forcément très, très éloignée de sa fac, mais qui nécessiterait peut-être un peu plus de temps de voiture, etc. Mais bref, de s'aérer, quoi. Bon. Ceci étant dit, ce que je dis là, c'est une réponse uniquement pour manager un stress trop immédiat et trop insupportable. Mais sur le sentiment d'impuissance par rapport à la situation générale, déjà, il faut se dire une chose, et ça, c'est ce que je dirais à notre auditeur, à notre camarade. Déjà, il faut bien se dire que l'histoire, elle n'est pas écrite. Et en fait, quand vous prenez l'histoire de très nombreux pays, vous découvrez que l'histoire change extrêmement rapidement. D'ailleurs, en règle générale, en l'espace de quelques mois, des bouleversements peuvent avoir lieu dans les pays. Donc, prenez un exemple très concret, je vais vous donner un exemple, il y a un siècle, il y a 100 ans, prenez la carte de l'Europe en 1914, hein, au mois de juin ou au mois de mai 1914, vous avez des monarchies absolues en Russie, vous avez l'Empire austro-hongrois, vous avez des empires, vous avez l'Empire ottoman, vous avez évidemment l'Allemagne impériale, etc. De l'autre côté, vous avez la Troisième République, l'Alsace est allemande, l'Alsace-Moselle est allemande, d'accord ? 4 ans plus tard, l'Allemagne est une démocratie, on entre dans Weimar, on en a parlé, l'Empire ottoman n'existe plus, il avait existé pendant 5 siècles, il n'existe plus, vous allez avoir d'avoir des troubles très importants entre les Grecs et les Turcs, avec des mouvements de population extrêmement forts, les Arméniens viennent tout juste de casquer sous la botte turque, la Russie tombe aux mains des Juifs, donc là c'est plutôt pour le pire, hein, avec les Trotsky, les Zinoviev et compagnie. Mais ce n'est plus la monarchie tsariste qu'on a connue. Donc c'est une Russie de troubles révolutionnaires, avec une guerre civile extrêmement violente. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Bon, en 4 ans, la face de l'Europe a complètement changé. Bien. Mais si vous continuez encore un peu avant, en 1919, qui aurait misé sur l'Allemagne? Un pays qui est affamé, qui a perdu des parts très importantes de son territoire, qui est occupé militairement...
Qui n'a plus d'armée,
je veux dire, et dont, comment dirais-je, qui se livre pratiquement pour survivre à la prostitution. qui aurait misé, qui aurait cru que 20 ans après 1919, en 1939, ce soit la première armée du monde? Et qui aurait cru en 1940, après avoir gagné contre la France, que 5 ans plus tard, l'Allemagne serait à nouveau en ruine? Et qui aurait cru que l'Allemagne en ruine en 1945 serait une grande puissance économique en 1965? Donc, avec toutes les modifications de frontières, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les bouleversements sont considérables. Prenons les États-Unis. Alors là, c'est des bouleversements pour le pire. Mais en 50 ans, on passe de l'Amérique blanche de 1965, qui est sur le point de conquérir la Lune, qui est une très grande puissance blanche, société qui paraît équilibrée, etc. 50 ans plus tard, c'est un pays en voie de tiers-mondisation, de balkanisation raciale extrêmement avancée. C'est un pays, les États-Unis, dans 20 ans, c'est un pays qui va éclater. C'est un pays qui va éclater. C'est tout à fait évident. Donc, la rapidité des changements peut être stupéfiante, dans un sens comme dans un autre. Donc, évidemment, à titre individuel, et ça c'est un réflexe, c'est une disposition psychologique des êtres humains, c'est-à-dire qu'on a tendance, si vous voulez, à percevoir l'histoire en la faisant commencer à notre naissance et en interprétant sa fin avec notre mort. Mais non, l'histoire commence avant notre naissance et elle se poursuivra bien après notre mort. Donc il ne faut pas, si vous voulez, essayer de percevoir le prisme de la réalité, même si c'est évidemment, on est préconditionné pratiquement par ça, faut essayer de dépasser cette compréhension de l'histoire à la seule, avec le seul ressenti qui est le nôtre, c'est-à-dire notre ressenti biologique. Donc on a un peu l'impression, si vous voulez, que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc des changements peuvent avoir lieu rapidement, ou au contraire, ils peuvent mettre très longtemps à mûrir. Si vous prenez le cas du national-socialisme, par exemple, pour citer cet exemple, et je pourrais prendre aussi le cas du socialisme, voilà l'idée national-socialiste, avant d'arriver à quelque chose comme le Troisième Reich, alors qu'il a été écrasé par les bombes, mais je veux dire, avant de parvenir à la révolution national-socialiste, vous avez 150 ans pratiquement de fermentation idéologique, philosophique, morale, une évolution progressive des sensibilités en Allemagne. Ce n'est pas quelque chose qui s'est opéré comme ça, pas par accident, c'est une très lente maturation. Et c'est vrai pour toutes les nations en réalité. Donc ce que je veux dire, après mon développement, ce que je veux dire à notre auditeur, il ne faut pas avoir le sentiment d'une impuissance complète face à ce qui se passe. Parce que on n'est pas omniscient. Et partir du principe que ce qui se passe maintenant va perdurer pour les 200 prochaines années n'est pas une interprétation correcte de l'histoire. Donc oui, la situation aujourd'hui est merdique, mais notez bien, je pense que ceux qui ont un peu de recul ici dans l'émission le perçoivent comme moi, regardez à quel point la France aujourd'hui est instable comparée à il y a 10 ans en arrière. Pour ne pas parler à 20 ans et à 30 ans. C'est un pays qui est de plus en plus instable, par exemple. C'est pas le seul. Mais c'est un pays de plus en plus instable. C'est intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on voit comme une désintégration, oui, est une désintégration, mais une désintégration est aussi un changement. C'est un changement d'État. Et on ne peut pas, à ce stade, dire quel sera le prochain État. On voit les tendances, donc il y a des tendances vers la destruction, mais il y a aussi des contre-tendances. Tout cycle génère son contre-cycle. Et on est dans ce processus-là. Donc, moi, je ne suis pas du tout... je m'inscris pas du tout dans un pessimisme de principe. J'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à ne jamais adopter cette disposition d'esprit ou avoir le sentiment d'être écrasé ou vaincu par l'adversité. Bien sûr, tout le monde peut avoir un coup au moral, mais il faut pas se laisser écraser par le pessimisme du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Et comme disait McDave, par exemple, la question raciale en France. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de question raciale en France. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de question raciale. Aujourd'hui, en France, il y a une question raciale. Donc, il y a des gens qui, progressivement, se mettent à comprendre le fait racial. Vous voyez ? Mais c'est parfaitement logique. C'est le principe dialectique. Les gens n'auraient pas pu penser la race, sauf en Allemagne, où là, il y avait eu un travail qui a été fait par certaines élites. En France aussi, il y avait des intellectuels racistes. Mais je veux dire, en Allemagne, c'est devenu un phénomène social, un mouvement social. Mais en France, les gens n'avaient pas besoin de penser la race. Ce n'était pas un sujet, le pays était homogène. Maintenant, il faut penser la race. Donc, c'est paradoxal. Vous avez une invasion du tiers-monde, donc une pollution raciale, mais en même temps, vous avez l'éveil de la conscience raciale. Et cet éveil, je peux vous le garantir, je peux vous le certifier, je signe des deux mains, cet éveil n'en est qu'à ses débuts. Parce que plus la situation va avancer, plus ça va être difficile, plus les gens vont commencer, par l'expérience, à tirer des conclusions.
Ne serait-ce que cette semaine, hein, bon, on a une sympathisante de chez Macron en marche, là, Agnès Seyrigui,
oui,
je crois.
Oui.
Donc cette femme-là, qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux, cette nana-là compte les Maghrébins. Hein, elle dit, oui, non, mais là, à Paris, les candidats sont Maghrébins, qu'est-ce qui se passe, hein,
voilà, elle a carrément dit, il est inconcevable qu'une Maghrébine musulmane devienne maire de Paris. Bon, et nous avons affaire à quelqu'un qui appartient à la droite bourgeoise et qui est encarté à La République En Marche. Donc c'est Agnès Sigarelli.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient dans le flou le plus artistique de la France, de la République, etc. Ils mettent un petit peu de temps à démarrer, si tu veux. Mais à un moment donné, ils se disent « Ah mais, quand même, là, il n'y a plus que des Arabes et des Noirs. »
Il y a beaucoup d'Arabes, oui.
Alors, ça commence comme ça. Tu as des percées chez des gens qui ne sont pas forcément sur nos idées, hein, de prime abord. Et ça, on le voit de plus en plus. Ça,
c'est une chose. Et puis surtout, comment dirais-je, c'est très difficile de devenir raciste dans un environnement qui est radicalement... Enfin, qui est structuré contre lui, parce que tout le système occidental est structuré contre le racisme. Si vous ne l'avez pas compris, depuis 1945, c'est ça. Hein. C'est le dogme central, l'antiracisme.
Ah bon, moi j'ai rien vu.
T'as rien vu. Donc c'est sûr que dans un environnement comme ça, comprendre la question raciale, la développer, les relations entre les races, etc., c'est pas facile, parce que vous devez travailler vous-même. Bon. Mais en revanche, quand quelqu'un devient raciste, c'est impossible de ne plus être raciste. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le prisme racial en tête, c'est pour toujours. Donc en fait, c'est une performance contre soi, hein, contre l'acquis subi, imposé par le système via son travail permanent de lavage de cerveau. Mais une fois que c'est fait, c'est bon. Donc il y a beaucoup de gens qui sortent du flou, là, comme tu l'as bien dit, cher Derek. Et puis alors... Je vais dire, mais n'hésitez pas à me couper la parole pour prendre la... Vas-y.
Ouais, non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, faut se méfier de raisonner trop à son échelle. On est un petit peu victime, entre guillemets, d'une illusion d'optique. À l'échelle de l'histoire, où on en sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est impossible de le prévoir. À 2 ans, oui. Je pense qu'à 2 ans, on sera en train de voter comme des cons pour Macron.
Mais c'est même pas sûr, tu vois.
C'est même pas certain, mais c'est donc déjà un peu plus probable.
Parce qu'il y a peut-être une vidéo de Macron en train de se branler qui va sortir, je sais pas.
Ouais, voilà, des nègres en sueur.
Oui, ou des nègres
en train de
sueur.
Se faire prendre par maman.
Il pourrait se passer des choses bizarres.
Faut arrêter là, c'est dégueulasse.
Il pourrait se passer des choses bizarres.
Mais ce que je voulais dire, c'est que. Ouais, t'as raison, il faut toujours garder. Garder espoir. Et puis je sais plus ce que je veux dire, merde.
Bah, disons, non, surtout que les retournements se font...
C'est la condition
même. Oui, voilà, c'est là que je voulais en venir. Il faut se méfier aussi d'un autre effet d'illusion d'optique, c'est le conformisme. Moi, j'ai tendance à penser que 80% des gens n'ont pas d'avis. Et toi, tu fais partie de la minorité des gens qui ont un avis. Alors forcément, tu te sens un petit peu seul, parce qu'aujourd'hui, le conformisme, évidemment, c'est d'être antiraciste, c'est de trouver que les juifs, quand même, ils ont beaucoup souffert, et que c'est quand même des gens géniaux, et que les femmes, bon, bah, oh, quand même, elles ont beaucoup de mérite. Mais le jour où ça bascule, tu vas te rendre compte d'autre chose, c'est qu'aussi les gens adorent haïr ce qu'ils ont aimé. Moi, je pense vraiment, si ça bascule, ça peut vraiment basculer très, très, très vite. Voilà, je le dis quand même.
Oui, tout à fait.
C'est l'histoire des Juifs. Hein.
C'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que tous ces comtes français qui étaient pétainistes en 42, c'est les mêmes comtes français qui sont tous gaullistes en 45.
C'est les mêmes.
Oui, oui, c'est les mêmes.
Et c'est passé en France, ça pourrait se passer en Allemagne, ça pourrait se passer en fait à peu près partout dans l'humanité. Hein.
Oui, alors il y a une formule pour ça, on appelle ça l'optimisme tragique. Donc c'est une certitude face à l'histoire. Il ne faut pas être, comment dirais-je, il ne faut pas prendre les épreuves pour... Les épreuves permettent de révéler. Les épreuves permettent de révéler. Il ne faut pas du tout y voir... La mécanique de la destruction n'est pas négative en elle-même. Elle fait partie de l'ordre des choses. Elle fait partie des lois du cosmos. D'accord ? Le cycle de la création et de la destruction est le cycle fondamental de tout ce qui existe. Donc, nous traversons cette phase de destruction, mais qui appelle par définition une création. Et pour moi, les camps vont très vite se délimiter, ils sont déjà, à mon avis, très délimités, et surtout, on voit, parce que tous les sujets, vous savez, en fait, c'est pourquoi il y a autant de polémiques à répétition sur à peu près tout. Tout devient, comment dire, excuse pour des confrontations de plus en plus violentes. Elles restent verbales actuellement, hein. Mais vous avez vu Mila, par exemple, cette jeune lesbienne, là. Bon, Mila, voilà, ça a enflammé les réseaux sociaux pendant je ne sais combien de temps, des centaines de millions, des millions, des métèques en fièvre, etc. Bon. Et puis encore tout ce qui s'ensuit. Parce que, ça c'est ce qui est apparent. C'est l'écume. Mais en dessous, les lignes de fracture, je veux dire, la tectonique des plaques joue à fond. Et donc, la tectonique des plaques appelle des tremblements de terre, fatalement. Et on sait très bien qu'on va avoir de très puissants séismes. C'est inévitable. Donc, la situation est fondamentalement instable. Elle est systémiquement instable. Et ça va s'aggraver. D'où, d'ailleurs, le sentiment un peu de fébrilité des autorités et du gouvernement, le recours de plus en plus net, d'ailleurs, à l'usage de la force policière pour dissuader les attroupements, etc. Tout ça est... On voit bien qu'on est dans cette phase à la fois de destruction et de raidissement. C'est logique. C'est-à-dire que quand la société commence à imploser, il est logique que l'État recourt à davantage de force brute, pour se maintenir. Parce qu'en fait, la trame sociale est en train d'imploser. Donc l'État ne peut plus bénéficier du consensus dominant, en fait. Donc l'État se maintient contre le consensus. Voilà, donc c'est pour ça que je dis vraiment, il ne faut certainement pas adopter un point de vue pessimiste, et c'est pour ça que je parlais de sagesse et de patience qui vient à force de combat, en fait. C'est-à-dire qu'avec le temps, on apprend à percevoir les événements dans leur longueur. Donc on a moins d'impatience. On parvient plus à se dominer. Mais même si la frustration est forte. Donc vraiment, moi je ne comprends pas d'ailleurs le pessimisme. Je comprends qu'on peut être un peu accablé, même beaucoup, mais je ne le comprends pas. Je pense qu'il faut vraiment lutter en soi contre cette tendance, essayer de voir vraiment toujours. Enfin, il faut essayer de prendre la vie avec joie. Faut oui, être joyeux, quoi. Parce que si t'es pas joyeux, je veux dire, t'es un caliméro, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, ça sert à quoi de vivre, quoi. La vie, c'est un combat, bah ouais, c'est ça qui est exaltant, je trouve, moi. Donc, moi, j'invite tous ceux qui peuvent avoir des doutes, être un petit peu, avoir un peu gros sur la patate. Bon, s'ils en ont vraiment trop gros sur la patate, faut pas hésiter à changer les idées un petit peu aussi, hein. Je veux dire, voilà. Enfin, faut savoir aérer aussi. Faut pas ruminer, je veux dire. Faut pas ruminer. Si ça vous prend trop la tête, si vous êtes en train de ressasser sur des trucs négatifs, c'est vous qui avez une mauvaise discipline spirituelle. C'est pas bon. Ça veut dire que vous procédez très mal intérieurement. Vous devez corriger ça. Ça veut dire que vous revenez trop souvent sur les mêmes choses. À ce moment-là, vous devez apprendre, comme une discipline martiale ou sportive, vous devez apprendre à avoir des espaces de temps dans votre esprit pour toute autre chose. Pour toute autre chose.
Voilà. Oui, alors, notre auditeur, il a quand même fait un parcours important en l'espace de quelques années.
Oui.
Donc, ça a été un turbo-déniaisage radical. Beaucoup ne l'ont pas fait ou n'en sont pas capables. Il faut se dire que ce que tu as fait, si tu l'as fait en très peu de temps, tu as quand même fait pas mal de parcours, c'est déjà bien, tu vois. Tu peux déjà, quelque part, en être fier. Et puis surtout, toi, bon, je pense que tu as connu un peu la merde. Déjà, rien que le fait d'être livreur Uber, je pense, c'est un.
Kebab en plus, hein? Kebab.
Oui, enfin, je pense que les Uber, ils font surtout ça. Tu t'es déjà confronté. Et visiblement, tu as été pion, quoi, hein, je pense. Je pense que tu as déjà été confronté au caca de la France multiraciale. Et je ne parle pas du fait que tu aies fréquenté les universités d'extrême gauche. Donc c'est déjà bien, tu vois. Je pense que beaucoup de gens qui ont fait ce parcours n'auraient pas la force de caractère pour se sortir eux-mêmes du caca sans chialer, car hein, quelque part, tu l'as fait. Hein. Faut oublier aussi une chose, c'est que la sinistrose, c'est partir vers la gauche. Hein.
Oui, par définition.
Par définition. Donc il faut être joyeux. Alors effectivement, c'est dur dans notre société qui sont comment dire très 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 athées de ne pas voir une forme d'optimisme dans l'épreuve. C'est les sociétés sécularisées ne font pas ça. Alors elles peuvent le faire, il y a des ersatz de développement personnel. Bon, c'est quand même beaucoup moins puissant que la foi, et moi je dis ça en n'étant pas croyant, la foi des combattants, l'optimisme, hein, le sourire dans l'épreuve, c'est essentiel pour nos idées.
Oui, tout à fait. Quelqu'un d'autre veut-il rajouter quelque chose à ce qu'a dit MacDav ou au précédent intervenant?
Je crois que ce fut fort et clair.
Je crois que, ouais, effectivement, si vraiment il est beaucoup sous tension, essayez de voir, dans la limite du possible, s'il peut changer d'environnement. Parce que fac gauchiste, plus environnement chargé en crouille, etc. Bon, c'est vrai que ça peut faire un petit peu beaucoup, quoi. Peut-être qu'il faut envisager de déménager, je sais pas. Il y a quand même des coins moins pollués que ce qu'il nous décrit, quoi. Parce que. Ouais.
Vraiment, je pense qu'il faut une discipline intérieure. Donc là, il est en mode overdrive. Certainement d'autres sont en mode overdrive. Ce n'est pas inexplicable, c'est logique, comme je l'ai dit. Dans un contexte aussi pourri que celui-là, beaucoup de gens seraient en mode overdrive. Simplement, face à une situation comme ça, il faut savoir opérer, il faut savoir s'adapter, changer les choses. Alors, c'est pas en ressassant encore plus, si vous voulez, sur ce qui va pas, que ça va changer. Parce que là, vous avez vraiment envie de tabasser le premier mec que vous voyez, vous lui cassez la gueule, ça change rien du tout. Vous allez avoir des emmerdes, mais c'est tout. Donc, encore plus de stress. Je pense aussi que, peut-être dans le cas de notre auditeur, mais peut-être dans le cas d'autres personnes, et peut-être un manque de nature aussi. Être tout le temps en milieu urbain, bon, il y en a qui
Milieu
sont.
urbain plus nègre, oui,
Ouais,
c'est
bon, il y en a qui sont, il y en a qui y arrivent, je veux dire. Mais
Oui.
si notre ami n'y arrive pas, je pense qu'il a peut-être, il a besoin d'être au contact de choses qui sont beaucoup plus, dont la force est communicative. L'océan a une force communicative. La montagne a une force
La
communicative.
forêt,
La forêt.
fais-toi un trip en forêt, même tout seul, tu vois, ou pas forcément avec des camarades ou de ta copine. La
Et
nature, enfin,
surtout
l'homme
pas se
européen a besoin de la
cramer tout seul.
nature.
Bah, c'est
Voilà.
garanti sans métèque, hein.
Voilà. Alors ça, moi, je pense qu'il faut que notre auditeur renoue avec ça, avec la nature. Ouais. Il faut être en prise avec la nature pour qu'on se sente dans un temps autre. Et puis même pas hésiter à faire des trucs thématiques, par exemple, aller creuser sur l'histoire de la région où on est, par exemple. Vous voyez, alors il y a toutes les époques. Hein, je veux dire, vous pouvez vous intéresser à l'Antiquité ou ce que vous voulez. Et du coup, aller en randonnée et aller voir les vieilles pierres. Vous changez d'époque. Vous arrivez dans une époque. Vous apprenez des choses. Vous êtes psychologiquement, spirituellement, vous voyagez. Vous voyez? Et vous pouvez tout recouper. Vous pouvez passer par la peinture en faisant ça. Vous pouvez aussi passer par simplement des bouquins d'archéologie. Il y a des tas de trucs, il y a des tas de choses à faire qui vous permettent de vous ménager un espace où vous pensez complètement à autre chose. Parce qu'il y a suffisamment de problèmes au quotidien pour pas en plus charger la barque. Voilà. Et c'est aussi le succès du foot, hein. Les jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils se gavent de foot. Ils sont gavés de foot. Le seul truc qu'ils lisent, c'est l'équipe. Ou France Football. Pourquoi? Parce que, au quotidien, ils ont pas de grand idéal ou de grand truc pour les faire rêver, etc. On leur donne rien. Ils ont pas de grands rêves, etc. C'est un monde chianteux, c'est un monde, en plus en France, non, tout est réglementé de plus en plus, c'est de plus en plus oppressant. Vous avez toute cette diversité dont on a parlé qui rend les choses encore plus étouffantes. Et vous n'avez pas quelque chose qui permet d'exalter sa liberté intérieure, qui permet de s'inscrire dans quelque chose. Donc, vers quoi ils vont? Ben, ils vont vers des trucs comme les grandes compétitions de football, où en gros, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. C'est pas très intellectuel. Il y a des héros, en fait, il y a des substituts de héros, quoi. Vous avez des grands footballeurs, etc. Vous avez des compétitions, donc il y a un drame qui se joue. Puis à la fin, il y a un gagnant, etc. Bon, on voit bien que il y a une réminiscence du militaire et de l'héroïque là-dedans. Mais c'est vraiment faute de mieux. Mais si tant de jeunes vont vers ça, c'est parce qu'au quotidien, la vie les gonfle. Donc ils veulent couper, ils veulent regarder un truc, ils n'ont pas besoin de trop se casser la nénette, et voilà. Mais vous pouvez faire ça, mais beaucoup plus sainement. C'est-à-dire, plutôt que d'aller vers des sports de nègres comme le football, vous pouvez, comme je l'ai dit, aller vers la nature. Vous pouvez vous lancer des défis comme ça. Je sais pas, ça dépend après de la sensibilité des uns et des autres. Mais peut-être vous dire, tiens, allez, j'ai envie d'apprendre la plongée. J'ai envie de voir ce qu'il y a sous la mer. Voilà, j'en ai marre de voir toutes ces têtes de cons autour de moi. Je vais aller voir ce qu'il y a sous les océans. Ce sera forcément mieux. Il y en a qui le font. C'est l'occasion de découvrir d'autres choses, de rompre et de découvrir d'autres choses et de se lancer des défis. Moi, je pense qu'il faut aborder le problème comme ça. À mon sens, hein. Je ne sais pas ce que diront d'autres intervenants, mais vraiment, en tout cas, rester dans l'urbain à 100%. Comme est notre ami, ça va pas lui permettre d'exalter le meilleur de lui-même en permanence.
Oui, alors... dis-toi aussi qu'il n'y a vraiment pas, même aujourd'hui en France, avec toutes les saloperies qu'on se mange au quotidien, il n'y a pas ce niveau de dégénérescence dans les campagnes françaises.
Ah non.
Vraiment, hein, y a pas de négrolatrie, y a pas de LGBTisme et compagnie chez les mecs qui bossent en campagne, ça n'existe pas. Il y a d'autres problèmes.
D'autres formes de misère, mais oui, il n'y a pas cette espèce de sénilité, sénilité franco-républicaine qui est d'aimer les nègres parce que ce sont des enfants éternels. Tu vois, c'est les grandes villes, ça.
Il hein. Y a même une. Puisque notre ami vient de la gauche révolutionnaire. Il est dans un milieu bourgeois par définition, c'est-à-dire les métropoles, ce qu'on appelle les métropoles, les grandes villes, c'est l'environnement naturel du bourgeois dégénéré, cosmopolite. C'est leur ville, c'est leur monde, tu vois. Donc si tu n'es pas bien dans une ville comme Nantes, je te rassure, c'est normal. c'est un milieu hautement toxique qui est conçu par et pour la bobocratie mondiale. Hein, donc pour les fiottes de Berlin, Londres, hein, comme avait dit Raphaël Glucksmann, c'est bizarre, je me sens plus chez moi à Londres ou à Berlin ou à New York qu'en Normandie. Oui, effectivement, oui, c'est tout à fait juste. Donc notre ami doit voir aussi ça sous l'angle de l'appartenance de classe. Il y a la race, fondamentalement, mais il y a aussi l'appartenance de classe. Hein, et il va pas trouver son bonheur dans une grande ville française, hein, actuellement, j'entends. Hein. Ça, c'est très clair. C'est comme le Berlin de Weimar. je m'y serais pas senti chez moi. Hein. J'aime autant vous le dire. Donc, je pense qu'il faut savoir choisir son milieu aussi. C'est très important. Et alors, pour casser l'idée, parce que quand on est comme notre ami, et puis il y a tellement d'auditeurs, quand on est tout le temps là-dedans, c'est cerné par ceci-là. On a l'impression que le monde est comme ça, que la planète est comme ça, que la France est comme ça et que le monde est comme ça. Non. La concentration urbaine en France, c'est une portion dérisoire du territoire français. 50% de la population française vit dans des toutes petites enclaves, principalement la dizaine de métropoles. Ce sont des tout petits points sur la carte du territoire français. Donc il y a une illusion d'optique qui est générée par la saturation du spectacle qu'on subit, saturation psychologique engendrée par le spectacle qu'on subit dans les grandes villes. On a l'impression, si vous voulez, qu'on est cerné par ça, que tout est comme ça, à perte de vue. C'est pas vrai. Vous sortez de ces grandes agglomérations, très grandes agglomérations, ça change tout de suite. Donc il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que ce sont des espaces où la dégénérescence est hyper concentrée, donc c'est vraiment haute dose, mais ce n'est pas la totalité de l'Europe. Très loin, s'en faut. Donc là, c'était peut-être le point que je voulais rajouter. Et pour ceux qui disent, ah oui, mais quand même, il faut bien voir ce que c'est l'Europe. Moi, j'y associe la Russie, bien sûr. L'Europe, c'est gigantesque en termes d'espace, c'est absolument gigantesque. Et il n'y a pas que les Français qui sont dans la mélasse, je veux dire, ou qui font face à des défis. Je veux dire, tous les peuples blancs, par définition. Mais tous les peuples blancs de la Terre vont pas rester indéfiniment dans la menace en disant on va continuer à voter pour des neuneux qui promettent je sais pas quoi les droits de l'homme. C'est fatalement, le système va tellement dégénérer que ça va péter. Il y a des peuples qui vont commencer à vraiment s'énerver, ça va créer
des boomers qui vont commencer à crever.
Oui, le phénomène générationnel aussi, ouais. C'est-à-dire que la génération des boomers va s'effacer progressivement. Ça va, alors on aura beaucoup plus de métèques, mais ça va aussi ouvrir beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de confrontations. Donc vraiment, il faut voir grand. Il faut voir beaucoup plus grand que peut-être ce qu'on pourrait être tenté de faire. Il faut voir déjà à l'échelle de l'Europe entière. Et quand je dis l'Europe, c'est Vladivostok, la Sibérie, l'arc polaire, vous voyez, je pourrais continuer comme ça longtemps, hein. Je veux dire, c'est très grand l'Europe, c'est très grand, et il y a un réel potentiel humain, et c'est pas parce qu'il y a un problème, une crise, que, on dit, ah bah ça y est, tout est foutu, tout est perdu, bah non, c'est pas le principe de la vie, c'est l'inverse, c'est le combat, c'est la lutte, hein. Vous n'avez qu'à lire Adolf Hitler, hein. Adolf Hitler, toute sa vie, tout son engagement, c'est la lutte, hein.
Und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen und niemals verzweifeln.
Bon, et il n'est pas le seul. Donc voilà, donc vraiment. Le pessimisme n'est pas acceptable. Ça ne veut pas dire qu'on se félicite de la situation. Mais le pessimisme n'est pas acceptable. Il ne faut pas le laisser s'installer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et là, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Il y a des façons de lutter contre le pessimisme. Et il faut éviter de tourner en rond. Il ne faut pas ressasser, il ne faut pas tourner en rond, il ne faut pas rester ruminer les choses négatives. Ça ne va pas aider à relever la tête et à tenir la course de fond. Donc il faut s'adapter, adopter une stratégie personnelle qui ménage du temps pour soi, qui permette de faire une rupture, puis aussi dans l'idée plus tard d'avoir une famille, tout ça, quoi. Mais puis plus tard, par exemple, notre auditeur peut aussi imaginer de voyager. Il peut imaginer de voyager. Découvrir l'Europe, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas rester focalisé uniquement sur la ville de Nantes, dont je précise quand même que la mairesse, Johanna Roland, est une grosse traînée de gauche, particulièrement dégueulasse. Voilà, mais bon. Quelqu'un d'autre là-dessus? Ou vous pensez qu'on a...
On a largement fait le tour.
On a largement fait le tour. Alors, on va passer au courrier suivant. Deuxième courrier de notre rubrique « Courrier à des auditeurs ». Alors là, on va faire une petite journée, militaire. Là, vous allez rigoler. Salutations participatives, amis nationaux socialistes. Je vous envoie ce courrier pour vous raconter ma journée de défense et de citoyenneté, que l'on appelle plus communément la journée d'appel. Alors, on en a déjà parlé dans l'émission à plusieurs reprises, mais c'est toujours marrant parce que c'est des jeunes, et ces jeunes-là qui nous écrivent découvrent un petit peu leurs compatriotes, et c'est toujours pas piqué des hannetons, donc... Alors je vais essayer aussi d'être bref que possible et de ne pas être bordélique. Ne m'en voulez pas si mon courrier est un peu long. Je me présente, j'ai 17 ans, je suis lycéen et conquis par le racisme depuis au moins 3 ou 4 ans, bien que je vienne d'une famille on ne peut plus gauchiste. Père boomer, mère putain nègre, bah, alcoolo-tabagique. J'ai commencé à écouter Fulbert l'année dernière lors de l'émission spéciale anniversaire du Führer, et j'ai tout de suite été conquis. Je tenais depuis longtemps à vous remercier pour votre travail, qui m'apporte un peu de bonne humeur chaque semaine depuis longtemps, et l'occasion se présente dans ce mail. Merci 6 millions de fois. Donc, mon intro est bien trop longue, rentrons dans le vif du sujet. Je me présente à 8h du matin devant la maison de l'université de ma ville. Et la première chose que je constate, pas un seul nègre devant le bâtiment. Je me dis que la journée commence plutôt bien. Mais suis vite désenchanté quand je comprends que ces saloperies boueuses sont seulement arrivées en retard. Rien d'étonnant. Une quinzaine de nègres et au moins une vingtaine de bougnoules sont présents à l'appel. Le reste des élèves est plutôt blanc, bien que bougnoulisé. Nous noterons quand même deux personnages qui auront leur importance au cours de la journée. Je remarque un drôle de petit bonhomme, un peu trapu, la gueule en biais, des tocs, des lunettes, un mulet et des difficultés à s'exprimer. Nous l'appellerons T4 pour simplifier les anecdotes. Deuxième personnage atypique, une sale pute du sous-continent indien. Nous l'appellerons Padjit, bien qu'elle semble avoir un vagin. Chieur de rue, c'est bien aussi, hein. Chieuse de rue. Nous patientons au moins 15 minutes, car les animateurs de cette journée sont évidemment en retard, on ne change pas un fonctionnaire. Finalement, ils arrivent, et nous sommes répartis dans deux salles différentes. Je ne raconterai pas la partie administrative, puis les tests de français dits de déficients mentaux, qui feraient pâlir jusqu'au plus nègre des adeptes de l'église de notre cher cardinal d'Éric, car au final, très anecdotique. La journée commence à être intéressante lorsque les flics arrivent et commencent d'abord à demander aux élèves de respectivement se présenter. C'est là que les choses deviennent amusantes, et qu'en bon démocrate, je ne peux m'empêcher de rire intérieurement. Lorsque le flic demande à Padjit, donc la chieuse de rue, de se présenter, elle explique brièvement son cursus, son âge, etc. Jusque-là, rien d'anormal. Mais lorsqu'il lui demande ses passions, ouvrez bien vos oreilles, chers amis, cette chieuse de rue lui répond non sans fierté qu'elle est militante de, je cite, « la gauche révolutionnaire pour abattre le capitalisme et pour le socialisme ». Je n'ai pu m'empêcher de laisser sortir mon rire quasi hystérique que j'ai heureusement vite réussi à calmer. On est en plein dedans, sale pute marron. Vient le tour de notre ami T4. Celui-ci à peine à s'exprimer. Je n'ai, à vrai dire, pas pu comprendre son nom, car il bégayait tout en marmonnant. Le flic lui demande son cursus. Il arrive, malgré de gros efforts, à dire qu'il est en formation pour devenir chauffeur de bus. Lorsqu'il lui demande s'il a des passions en dehors de son activité professionnelle, notre beau spécimen de trisomique, encore inconnu à ce jour, lui répond de toute son âme de démon être passionné par les bus. C'est sa passion.
Oh là 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 là.
Bah, il vit sa passion, hein. Qu'est-ce que tu...
les buffes.
Je ne comprends décidément pas ce que l'on peut bien reprocher à ce cher Alexis Carrel, fait observer notre auditeur. Les flics nous présentent leur parcours professionnel, peu intéressant, bien que le mec de l'équipe soit passé par la Légion et qu'il semble être un brave type. Vient le moment tant attendu où il nous explique, comme à des débiles profonds, des nègres en somme, nos droits et nos devoirs, les valeurs de la République. Une élève cite la liberté d'expression, le flic explique qu'elle est quasiment totale en France, mais que... Je cite, « la liberté des uns commence là où s'arrête les autres. » Ouais. Mais on ne sait pas qui détermine la liberté des uns des autres, hein, c'est bien fait quand même. Alors, puis, là il cite donc le flic qui explique, quoi. Et, par exemple, le négationnisme, vous connaissez ? Je ne peux m'empêcher d'afficher un grand sourire.
La liberté d'expression n'autorise pas à nier des faits historiques ou à injurier des gens.
Bien dit, Goy, bien dit. Après les doigts, on attaque les devoirs. Et je vous laisse deviner le devoir. Le devoir ?
De mémoire.
De mémoire. Pour se rappeler et ne pas recommencer nos erreurs, comme l'explique le flic, qui commence de plus en plus à ressembler à un prof moralisateur. Il nous explique, dans le plus grand des calmes, que quand on entend dire... J'aime pas les homosexuels, ou encore j'aime pas les juifs, on sait où ça mène, et attention, c'est dangereux. Toutes ces phrases sont réellement sorties au mot près de la bouche de ce Shabbat Goy, de flics. Toujours les sodomites et les youpins. Toujours. On se demande vraiment pourquoi. Je pourrais aussi parler du passage sur les drogues où les flics n'avaient rien à foutre que des blancs bougnoulisés parlent sans complexe de leur consommation de shit, ou encore d'un spécimen de négresse magique des îles qui visait des études dans les relations internationales. Mais ce courrier commence à être déjà bien trop long, et vous m'en voyez désolé. Je ne peux pas vous faire de dons, ouais, ça c'est, à mon immense regret, mais je le ferai si je le peux lorsque je travaillerai l'année prochaine. Je devrais travailler dans la gestion du gaz et je pourrais collaborer, s'il le souhaite, avec la rôtisserie de Diabolix. Alors là, il nous dit un truc.
Parce excellent.
Il a envoyé un deuxième courrier. Et ça, c'est le deuxième. Putain, les goyes. Je mettais un détail plus capital. Le flic nous a sorti aussi que c'était grâce à des gens qui ont combattu pour les valeurs de la République qu'on ne parle pas allemand aujourd'hui.
C'est tout à fait juste, et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on peut aujourd'hui étudier l'arabe à l'école. Merci.
Non mais tous les mêmes, ils sont passés quoi. Et que sans ces combattants, il n'y aurait pas de juifs, pas d'homosexuels, pas de manouches ou de chauves, et qu'on serait tous blonds aux yeux bleus. Il a réellement expliqué comme ça, au mot près.
Ah bah écoute, moi je prends.
Non mais il serait quand même temps d'abattre la 5ème République pour qu'on renomme la 5ème putain, hein, la République de Monte Cassino. Quoi. Au moins les choses seront claires. Hein,
oui.
Voilà, autant dire les choses de suite. Voilà. République de Monte Cassino, française. Ça serait vraiment bien.
Tu penses aux maroquinades, probablement, cher Derek.
Oui.
Alors, nos, le maréchal Juin. Alors, pas de m'attarder, mais si vous ne connaissez pas, pour les plus jeunes auditeurs, la grande épopée de l'armée de libération qui a passé par l'Italie avant de remonter vers la France pour rejoindre l'Allemagne, avec les alliés, hein, surtout les Américains. En passant par l'Italie, t'es quand même composé d'une partie de maghrébins qui se sont fait plaisir sur la population italienne, ça s'appelle les maroquinades. Pour ceux qui connaissent pas l'épisode, je vous invite à vous renseigner. Ça met en général très mal à l'aise les militaires français, hein, qui n'aiment pas trop qu'on leur parle de leurs compatriotes qui ont contribué à la libération de la France à coup de viol de blanche. C'est pas quelque chose que les militaires français aiment qu'on rappelle. Ils n'aiment pas ça.
Oui. Surtout que les Français étaient déjà des Français du futur, en fait. Hein.
Si tu veux, moi, les maroquinades, si tu veux, c'est un peu le projet final, hein, de la France de Gaulle. Hein.
C'est ça. C'est le projet France.
C'est le projet France.
Il n'y avait peut-être pas assez de nègres, je pense. Je pense qu'ils auraient aimé qu'il y en ait plus. Il y en a plus maintenant, très probablement.
Oui.
Mais on trouve dans des villes françaises, hein, des rues Monte Cassino, des avenues Monte Cassino. Pour célébrer le viol des blanches par des métèques, hein, des métèques français.
Écoutez, hein,
le viol, vous êtes fort soft. Il y avait viol, sodomie, torture.
Viol jusqu'à la mort. Hein. Il y a eu des viols
d'un curé, je crois.
Des viols mortels. Oui.
Précisons qu'il violait aussi les vieux, les grands-pères. Oui. Hein. C'était indistinct. Oui. Déjà, ils étaient LGBT, les maghrébins, à l'époque. Alors, simplement, c'est donc il nous dit « Si Kyle, chers amis, notre jour viendra », et c'est signé « Exterminateur ». C'est un doux nom à mes oreilles. Alors, bon...
Exterminateur, je précise.
Exterminateur,
Exterminateur, autant pour moi.
C'est encore plus... Exterminanègre, c'est comme un cousin.
Alors, messieurs, cette armée française, même si c'est une journée de préparation et c'est pas une journée de formation, c'est une journée de formation symbolique, c'est pas un vrai cursus militaire. On sent, hein, à l'occasion de cette journée de formation, qui est une formalité, on sent que, en fait, c'est un exercice de propagande du régime, en gros, quoi. On leur dit, vous êtes contents, il y a des juifs et des homosexuels en France, on a vaincu les nazis. Mais remarquez bien, ceux qui pourraient être tentés de nous dire, mais quand même, pourquoi ressasser sur le passé? Mais les principaux qui ressassent sur le passé pour nous faire avaler les saloperies du présent, c'est eux. Hein? Je veux dire, on n'y coupe jamais, quoi. Je veux dire, l'exemple nous est donné, quoi. Qui veut réagir sur l'expérience
Ouais. Alors déjà, moi je dois dire que je l'ai faite aussi, la journée d'appel à la défense. Bah, c'était il y a quelques années. Mmh. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a changé. Hein. Parce que c'était pas comme ça.
T'avais pas l'impression d'assister à une réunion du comment dire, de la section gay du parti socialiste?
J'avais surtout pas l'impression de participer à un cours d'éducation civique fait par une militante gauchiste extrémiste, quoi. Donc là, visiblement, enfin, j'avais cru comprendre, hein, en suivant l'actualité, qu'au niveau éducation civique, ils avaient musclé le jeu un petit peu.
Ah, c'est
mais fait, là, c'est du bodybuilding de très haut niveau, hein, parce que
ils veulent détruire le capitalisme pour la juste société socialiste.
Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque de la mise en place de ces journées d'appel. Alors bon, les plus jeunes, ils s'en souviendront pas parce qu'ils étaient pas nés. Mais en fait, la gauche voyait ça à l'époque comme une reprise à main, ouais, fasciste de l'éducation.
Ouais, l'antichambre du fascisme.
L'antichambre du fascisme. On envoie les jeunes dans l'armée pour leur laver le cerveau pour que à la fin ils établissent une dictature hitlérienne. Hein,
c'est... Alors je me souviens, il y a une militante socialiste, enfin même, je crois même la chef des militantes, j'ai oublié son nom, qui avait dit que c'était un retour aux jeunesses hitlériennes. Et Sarkozy allait former.
Ouais, ouais, ouais.
Sarkozy allait former la jeunesse à marcher au poids de l'eau. Résultat.
Non, mais c'était avant Sarkozy. Hein. C'est avant Sarkozy. Hein. Moi, je l'ai passé cette jeunesse, JAPD, et c'était c'était avant que Sarkozy arrive au pouvoir. Hein.
Oui, oui, non, je confonds avec le service civique obligatoire qui, en fait, est un. Une formation idéologique républicaine.
Ah oui, oui, oui.
Ouais. Non, mais pour les gens qui croient qu'on peut encore faire de la politique comme on en faisait au 19e siècle, écoutez bien ce que nos ennemis vous disent. Écoutez bien. Hein. En dernière analyse, ils n'ont qu'une chose à dire. Nazis, parler allemand, gay, juif. Donc je suis désolé, mais démocratie participative, ça coule de source. Hein. C'est juste le bon sens, c'est juste le minimum.
Oui, non, mais bien sûr, non, mais les gens sont dans une gang, alors il y a beaucoup de conformistes, tu disais tout à l'heure, tu disais, bah finalement, les gens, ils sont conformistes, ils suivent, c'est le troupeau, quoi, c'est le troupeau, le fait de suivre. Donc les gens, en fait, ils répètent les conneries. Non, mais n'empêche que les conneries mais éculées...
Le conformisme vient de l'État, hein.
C'est non, mais il faut quand même savoir que le grand projet d'Adolf Hitler, quand Adolf Hitler est rentré en politique, son grand projet, c'était de s'assurer que les Berrichons parlent allemand. Faut quand même le savoir, je veux dire.
Ouais, machiavélique, ça vous glace le dos, là. Oh là là.
Ah, ça glace
le
dos.
Ah, le salopard.
Putain, imaginez, quoi. Le projet du Troisième Reich, c'était d'imposer l'allemand en LV1 à la France. C'est ça le projet, si vous voulez.
C'est quand même... avec des blonds yeux bleus. Ah, même pas un bigot.
Bah, franchement, que des blonds yeux bleus et allemand LV1, moi, je suis plutôt preneur, hein. Excusez-moi, hein. Ce serait beaucoup plus sexy que ce qu'on se tape maintenant, hein.
Moi, ouais, honnêtement, s'il faut perdre les juifs et les homos pour se débarrasser des arabes.
La ligne de conduite, elle est assumée, c'est expliqué aux gens. Voilà. Sur quoi repose cette république? Les juifs et les PD. Pourquoi on s'est débarrassé du Troisième Reich? Pourquoi ça justifie l'édification de cette république et c'est ça notre grande victoire? Le salut des juifs et des PD. Point barre. C'est tout. Si vous voulez savoir qui contrôle cette république, ils vous le disent eux-mêmes. Les juifs et les PD. Donc, et voilà. Et vous avez tous ces galonnés stupides qui sont là au garde à vous devant ce truc-là, etc. Enfin, c'est le stade ultime de la sénilité. Donc, ça devient, effectivement, ça devient grotesque. Parce que, il donne une bonne description, quoi. Tu sais, t'as les nègres et les bougnoules qui arrivent là, tu sais, en traînant des grolles. T'as des chiteux à dreadlocks qui sont à moitié défoncés de la veille, et qui sont censés être sensibilisés, machin. On leur parle de droit et de voix, tu vois. Et puis, en gros, c'est le droit de rien branler, quoi. C'est la déchéance complète. Je vais peut-être juste sauter je vais faire un bond de puce. Parce que, visiblement, les autorités françaises ont été très convaincues, visiblement, par la journée JAPD, hein, qui est une des gloires françaises depuis quelques décennies maintenant, qu'on doit à Chirac. Ils ont été tellement convaincus, maintenant, ils veulent... comment ils appellent ça? Le service... Comment ça s'appelle? Service machin obligatoire, là, vous savez? Le SNJ, je crois. Service national... Je sais plus. Le truc de Macron, là.
C'est le service civique, non?
Non, non, vraiment, ils font du camping, vous savez.
Oui, oui. D'ailleurs, il y avait eu des vidéos, ils envoyaient en. Comment ça s'appelle en Guyane, là, il y avait le Gogol.
Il y avait Attal, il y avait
oui, Thibaut Inchep qui faisait des vidéos sur YouTube avec Gabriel Attal, le juif PD.
C'est le SNU, le Service National
Unique. Tu en bon République.
Ouais, 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 bah Inchep, il a même fait Auschwitz, c'est pour vous dire. C'est comme, oui. Je pense que c'était une vidéo sur la sèche, je sais pas, quelque chose comme ça. Enfin bon, le SNU, vous avez regardé le truc? Alors ça va devenir obligatoire, systématique, à l'horizon 2024. Je crois que le vrai projet de ce truc-là, de la part du PD juif Attal, c'est de permettre à des nègres de banlieue de sauter des petites gamines catholiques contraintes et forcées d'atterrir dans ces, oui. dans ces, oui, dans ces oui, machins. Oui. Non mais je crois que c'est de faire baiser des Gauloises par des nègres de 18 ans.
Ah ben non, mais le projet c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont dit c'est la mixité sociale. Bon, la mixité sociale, on sait ce que c'est. Voilà, c'est
mixité raciale.
Que des nègres baissent des blanches.
Voilà. Oui, oui, non, ça me paraît très clair.
Ouais, et tout ça sur fond de valeurs de la République, évidemment.
Ah bah c'est consubstantiel, hein, je veux dire. Qui sur le. Moi, ça me fait marrer cet épisode de JAPD, mais. Du coup, je sais pas comment ça va se goupiller, comment ils vont passer de la JAPD au SNU, je sais pas comment ça va se.
Par l'anus.
Par l'anus, ouais.
Tu sais, ils ont des semblants d'uniforme et tout. Alors que il faudrait. Moi je suis favorable à ça. Enfin, je précise. Je suis favorable pour les jeunes blancs à un service militaire. Ça les formerait vachement bien. Pendant 2 ans, je leur mettrais 2 ans, pas 1 an, 2 ans. 2 ans, vie de caserne, etc. Là, on aurait. Je dis pas que ça serait la solution à tout. Mais ça pourrait être. Mais aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'on aurait les cadres, je sais pas. Mais ça permet de transmettre des valeurs de camaraderie, etc. Bon, peut-être au bout d'un moment, on se faisait chier en caserne, mais ça transmet des valeurs de camaraderie. Les mecs apprenaient quand même à manipuler des armes. Bon, quand même pas mal, quoi.
Bah, les juifs, ils font combien là chez eux? C'est 3 ans,
3 ans, 3 ans.
C'est costaud, hein.
Et puis t'as pas le même sens du patriotisme aussi, hein. Quand t'es sous les drapeaux et tout, t'apprends ce que c'est de défendre un pays. Hein. Ça a des valeurs, hein, des valeurs martiales qui sont transmises quand même. Hein. Je dis pas que c'est la solution hein, du tout. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Tous les 68 ans ont pratiquement fait leur service militaire. C'est tous des crapules. Hein. Enfin, pour beaucoup, c'est des crapules. Donc c'est pas la solution miracle. Hein, mais ça véhicule quelque chose. Ceci étant dit, aujourd'hui, hors de question. Hein, apprendre à des nègres de banlieue ou à des bougnots à servir de comment dirais-je d'un
oui, c'est pas à peine.
Non, ça va.
Mais encore une fois, on peut constater que les juifs ont tous les avantages. Ils se tapent 3 ans de service militaire, mais eux, ils peuvent buter du palestinien sans aucun problème. Toi, tu te ferais ton service militaire si t'as le bonheur et la joie de vouloir buter un bougnoul, t'es en taule dans la demi-heure.
Oui, mais les juifs, eux, font partie de l'humanité. Est-ce que nous, pauvres goy,
Oui, c'est ça.
Oui, voilà, nous ne sommes pas à l'avant-garde de la République.
C'est ça, nous avons quelques restrictions. Non, mais c'est très bien, parce que...
Ce n'est pas des parcelles de divinité, pas le droit.
En plus, ce qui est bien, tu vois, c'est que les mecs sont... Enfin, ils ont la double nationalité, ils vont faire leur service en Israël, ils reviennent, enfin, je trouve ça extraordinaire. Non, mais bon, c'est nous qui sommes cons, hein, c'est tout. Hein. C'est nous qui sommes cons. Hein. Les juifs ils sont malins, enfin je veux dire ils font leur truc, bon ça marche pour eux, tant mieux, tu vois. Je veux dire, si nous on est des brêles, qu'on est pas foutu de voir clair, c'est de notre faute. Hein. C'est voilà, hein, c'est, il faut apprendre à avoir les yeux en face des trous. Hein. Donc voilà, et c'est certainement pas avec le SNU, avec déjà les gonzesses dans l'armée, c'est quoi ce concept? C'est quoi cette idée là? Qui c'est qui a encore idée? C'est des PD qui ont une idée pareille, ou des juifs, c'est pas possible autrement quoi. Des femmes dans l'armée, qu'est-ce que c'est que ça? Dans l'intendance, à la limite, quoi, ou faire des papiers, mais dans l'armée.
Ah, les écoute, femmes dans l'armée.
Les femmes, elles sont fortes et indépendantes. Je pense qu'elles sont tout à fait capables de se défendre comme un homme, et je vois absolument pas le problème.
Bon, c'est moi alors. Je suis un vieux
moi, quand je vois les nanas grasses qui font 1m60.
Gendarmerie
Ouais, gendarmerie.
C'est mes préférés.
Mais je me dis, mais putain, mais comment c'est, enfin, comment enfin, ces nanas-là, je pense qu'on. Déjà, si ça pète, est-ce qu'elles vont avoir le sang-froid nécessaire pour agir de façon intelligente?
Ah
J'en
non,
doute très
rappelle-toi.
fortement.
Rappelle-toi l'histoire quand deux gendarmettes avaient essayé de maîtriser un bougnoule, et le bougnoule les a. Il en a au moins tué une s'il n'a pas tué les deux.
Oui, et puis même le pire, c'est celles qui font les opérations Vigipirate, quoi. Tu les vois se pavaner,
Ouais.
alors en plus, hey, elles ont un flingue entre les mains.
Ouais, et puis un melon
Non,
aussi.
elles, hey, non mais c'est. Oui, enfin un
Mais tu vois.
melon, et puis surtout un cul absolument énorme qui passerait pas. Qui passerait pas une barrière, quoi.
Bah, rappelle-toi, est-ce que vous vous rappelez, parce qu'en France, tout le monde oublie tout, c'est un tel cirque. Vous vous rappelez, là, l'attentat à Roissy-Charles de Gaulle? À moins que ce soit Orly, mais je pense que c'était Roissy-Charles de Gaulle.
Oui,
lequel?
Bah, il y avait trois plantons là, de l'armée de l'air. Ils faisaient des... Je pense que c'est l'armée de l'air. Je sais pas l'armée de l'air, mais on s'en fout, quoi. Enfin, c'est des plantons de sentinelles. Dans tous les grands aéroports, enfin, vous avez des militaires français qui patrouillent, d'accord? Et ils étaient par trois. C'est la gonzesse qui s'est fait attraper par l'arabe, et l'arabe l'avait mise l'avait complètement bloquée, etc. Heureusement que les autres étaient là pour en venir à bout, quoi. Et donc il le refroidit, quoi. Ce que je veux dire, c'est que. C'est pas sérieux, quoi. Non, mais ils prennent n'importe quoi, ils prennent n'importe quoi, ils prennent énormément de bouillon, ils s'en font une fierté en plus, hein. Ils recrutent que là-dedans.
Des nègres, mais alors noir, 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 noir. Hein.
Ouais, mais le nègre, il est docile quand il n'y a pas d'arabe autour. Et ça, le commandement français, il le sait. Mais c'est vrai, je
C'est
paradis
vrai,
pas.
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Il est docile, regarde Deschamps, qu'est-ce
Le
qu'il a fait
pouvoir
des.
magique de les... Le pouvoir magique des Français.
Et ben, non, mais les Français, ils ont cette capacité-là, tu vois, je veux dire. Tu prends l'équipe de France de Deschamps, il nous refait l'Afrique, comment dire, la OEF.
Ouais, manger, ouais.
Il nous refait la OEF, alors voilà, et il a viré tous les bougnoules, pratiquement tous les bougnoules. Il y a plus de lobby bougnoule. Tu remets du bougnoule là-dedans, tous les nègres sont engrainés, mais alors instantanément, et les blancs tiennent plus rien. Et d'ailleurs, vous savez, l'affaire en Afrique du Sud, là, c'est quand l'équipe de France s'est mise en grève. C'est extraordinaire, ça. Rappelez, ça, Coupe du Monde de football, grève.
Oui, nice na, Afrique du Sud.
C'est ça, bon. Bah, ça, si vous voulez, cet épisode-là, c'est ce qui va se passer en France à l'échelle du pays. Il y aura une grande masse de nègres, complètement stupides, comme tous les nègres, qui vont suivre les bougnoules agressifs, parce que naturellement, ils suivent leur maître arabe, et les Arabes vont se servir des nègres comme boucliers humains pour semer le chaos partout en France et essayer de prendre le pouvoir. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Exactement comme ça que ça va se
Bah,
passer.
c'est déjà ce qui est plus ou moins en train de se
Oui,
passer
à
sur les théâtres
plutôt.
africains, hein.
Voilà, mais bon, ça va se passer comme ça, voilà, et t'auras les Français, ils seront là, enfin, tu sais, les dirigeants français, là, tout le monde, hein, militaires, magistrats, flics, renseignements, politiques, ils seront tous là comme des glands, comme des flancs dans le magnésium, à pas savoir quoi faire, alors que c'est évident, et ils feront, ils vont essayer de, je les vois venir, ils vont essayer de nous faire un truc à la Deschamps, mais à l'échelle du pays, comment on peut neutraliser les Arabes tout en gardant les nègres, tu vois, c'est comme ça qu'ils vont essayer, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui.
Ah moi je pense qu'ils vont essayer de négocier. Hein.
Ouais, mais c'est le problème si tu peux pas négocier avec les Arabes parce que les Arabes ont toujours de l'appétit. Donc toi tu crois que tu as négocié un truc, ouais, le lendemain c'est plus valide.
Bah ouais, mais bon, c'est sans compter la très grande lâcheté des gens qui nous dirigent. Hein. Faut quand même pas sous-estimer leur capacité à vendre le pays et à vendre ce qui appartient à la collectivité. Ils ont quand même démontré une très très grande capacité à trahir et à gaspiller le bien commun. Hein. C'est limite, c'est de leur ADN. Hein.
Puisqu'on parle un petit peu de nègres, d'armée, là, j'étais quand même été très impressionné par la journée d'appel. J'ai des étoiles dans les yeux. Vous n'avez pas suivi un peu ce qui se passe là au Mali, en Afrique de l'Ouest? C'est un merdier sans nom. L'armée française envoie toujours plus d'hommes. Ils en ont pas beaucoup d'ailleurs. Ils en ont, je crois, 6 000 quelque chose. Enfin, ils en ont plus que ça en Afrique, mais sur ce théâtre d'opération particulier là.
Ils en ont plus que ça sur les routes surtout.
Ouais, mais non, mais ils n'y arrivent pas. Mais je veux dire, vous avez un papier de Bernard Lugan, dont je recommande la lecture. De toute façon, quand il y a une question africaine, référez-vous à Bernard Lugan. C'est quelqu'un de très synthétique qui explique les choses très bien. C'est sur son blog, dont j'ai plus le nom. Enfin, vous tapez Google Bernard Lugan, vous tomberez sur son site officiel. Vous pouvez lire toujours des notes qui vous permettent de comprendre.
L'Afrique réelle.
L'Afrique réelle, voilà, merci. Donc si ça vous intéresse, etc., ça doit nous intéresser parce que tout ce qui se passe en Afrique, malheureusement, les convulsions africaines ont tendance à déborder en France, vous l'avez peut-être remarqué. Il explique, en gros, hein, il donne des solutions. Alors j'aime bien parce qu'il parle à l'ancienne. Alors il liste, je crois qu'il y a 3 solutions. Il dit, bon, soit on l'a fait comme à la grande époque, on dépose 50 000 hommes et on tue tout le monde. En gros, hein, bon, mais il dit, c'est peu probable que l'option soit retenue. Et après, sinon, il rentre dans d'autres options. Tout ça. Mais en gros, il dit, sauf à se mettre vraiment à la chasse aux nègres, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Avec des conséquences terribles, parce qu'avec la démographie africaine, on en a souvent parlé. Fatalement, ça va déstabiliser l'Algérie. Je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine. Il y a eu un attentat suicide à la frontière entre le Mali et l'Algérie, contre un poste douanier algérien. Il y a des djihadistes qui ont fait péter une bombe, enfin un attentat suicide contre des militaires algériens. Donc, ça commence à devenir étrange. Hein.
Oui, non, mais en fait, beaucoup de... Comment dire d'événements... de la guerre au Sahel, qui ne concerne pas directement les forces françaises, ne passe pas dans les médias français. Mm. Par exemple, l'armée tchadienne, qu'on considère comme la seule capable, on va dire, de se défendre elle-même, c'est pas le cas. Il y a quelques mois, la LAT a dû désinguer une colonne de rebelles tchadiens, une colonne blindée tchadienne, qui était désinguée par l'armée française. Parce qu'en fait, aucun de ces États n'existe. Aucun de ces États n'est viable. Ce sont des conglomérats de tribus. Et à partir du moment où la France dégage de ce merdier, on aura un retour aux luttes séculaires entre nègres, entre bougnoul, entre nègres et bougnoul. Ce qui, quelque part, est un peu l'avenir de la République.
Ce qui passe en rappeler aussi l'État algérien.
Ce sont des constructions. En gros, tu as une tribu qui gère le coin, enfin, c'est le plus gros pillard du coin qui gère le territoire, et il a droit d'avoir un siège à l'ONU. Mais c'est tout. Hein.
Alors, messieurs, voilà pour notre JAPD, et puisqu'on parle d'Afrique, j'ai un troisième courrier pour notre première rubrique. Troisième courrier, vous allez voir, ça fait le lien. Salut à l'équipe de DP. Je tiens d'abord à réitérer les assurances de mon respect pour votre travail, votre militantisme. Le savoureux pastiche de Blagodaryov, oui, de la semaine dernière, oui, m'ayant rappelé ma condition et m'a convaincu de vous envoyer ce court témoignage. Alors, on a passé le clip de Blagodaryov, c'est enturbanée africaine, je crois. Africaine enturbanée. Et alors, donc, ça a déclenché le témoignage de notre auditeur. Accrochez-vous, vous allez voyager. Alors, je suis en contrat avec la MINURSO depuis presque 2 ans. Alors, la MINURSO, donc pour la MINURSO, c'est United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la mission des Nations Unies pour le référendum dans le Sahara occidental. Il y a un micmac territorial entre l'Algérie et le Maroc à propos, du Sahara occidental. Bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est une compétition entre ces deux États. Pour l'Algérie voulant avoir accès à la mer. Bref. Alors, donc, je suis en contrat avec la MINURSO depuis presque 2 ans en tant qu'OLFA au Sahara occidental, ce qui m'a permis d'observer le singe des sables dans son environnement. Le saharien est une sous-espèce de mauritanien particulièrement exécrable, laid et violent, des siècles de consanguinité nés dans guerre. Ce parasite a la particularité de ne vivre exclusivement que de la charité des hommes blancs, et moins blancs. Détournement d'aide humanitaire, contrebande, trafic en tout genre sont leur quotidien. Ils pourraient être redoutables si leur QI ne dépassait celui d'un singe en rut. J'éviterai d'aborder le sujet de l'humanitaire que je développerai si vous ont formulé le souhait. Je vais donc me recentrer sur mon sujet qui, pour faire contraste au culte que vouent les femmes ariennes pour les terres nègres, le culte de la semence blanche pour les sahariennes, chez les sahariennes. Pour vous mettre dans l'ambiance, je vais vous raconter une de mes sorties. Un matin, nous dirigions vers le camp de l'Aayoun, en passant par la frontière algérienne. Arrivé au poste frontière, je sentis déjà la différence. Autant les militaires algériens étaient propres et bien rasés, c'est relatif, les agents sahraouis étaient sales, désorganisés et teigneux. Je leur donnais donc, histoire de les faire taire, deux bouteilles d'eau glacée. La barrière se lève. Le trajet fut interminable. La vue de ces étendues désertiques, transformées en décharges, était affligeante. Comme quoi l'homme noir est le pire ennemi de la nature. Arrivé au camp, j'étais invité avec les autres membres du staff par un dignitaire local. Ils nous servirent un thé pendant que nous discutions du prochain approvisionnement. Vint un moment où une de leurs vieilles se mit à chasser les hommes de la maison. Je les ai suivis par politesse quand notre interlocuteur me dit « Ah non, vous restez », en pointant du doigt le salon. Je me tournai donc vers mon collègue espagnol qui me rassura « C'est dans leur coutume ». Curieux et gêné, je regardais les femmes d'un air interrogateur en attendant la suite. La vieille se mit à baragouiner je ne sais quoi en riant. Elle fut reprise par une femme plus jeune d'une vingtaine d'années qui me demanda dans un français approximatif de me mettre à l'aise. La vieille ordonna à cette femme de nous resservir du thé, ce qu'elle s'empressa de faire avant de s'asseoir à mes côtés cette fois. Mon collègue m'expliqua que cette vieille me demandait de faire connaissance avec sa petite fille. Cette dernière, qui ne portait pas de voile, et d'un marron beaucoup plus clair, me dit qu'il était coutumier pour les femmes de la tribu d'avoir un amant blanc, qu'elles appellent un sébi, pour les engrosser, que ses sœurs étaient toutes enceintes. Attendez, je me suis mal pris, je pense. Voilà, attendez, je reprends, je relis. Alors, mon collègue m'expliqua que cette vieille me demandait de faire connaissance avec sa petite fille. Cette dernière ne portait pas de voile, et elle était d'un marron beaucoup plus clair qui me disait qu'il était coutumier pour les femmes de la tribu d'avoir un amant blanc, qu'elles appellent un sébi, pour les engrosser. Que ses sœurs étaient toutes enceintes, et que c'était son tour. Je déclinais poliment et me dirigeais vers la sortie en anticipant un lynchage. Il n'en fut rien. Le patriarche de la famille nous attendait à la sortie appuyé sur sa Mercedes en me demandant si ses filles nous plaisaient, et qu'on ferait de bons amants. Sur le chemin du retour, je demandai à mon collègue de m'expliquer ce bazar. Il me répondit que tous les enfants du camp étaient adultérins, et que pour une femme du coin, plastronner en compagnie d'un blanc était signe d'opulence, et qu'il serait intéressant de venir se soulager ici de temps en temps, dit-il en plaisantant. Enfin, peut-être. J'espère que mon témoignage vous sera utile, et qu'en attendant de traduire mon soutien en don financier. Bien à vous, que vive la race blanche. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette expédition dans le Sahara occidental ? Derek, as-tu quelque chose à nous dire là-dessus ?
Écoute, oui, ça, là, pour le coup, c'est une tribu qui est en voie de développement, hein, qui essaie de sortir de l'hiver racial, ma foi, par des manières tout à fait, pas tout à fait orthodoxes, mais je pense qu'il peut être, avoir une certaine efficacité.
Ça m'enthousiasme. Merci à notre auditeur pour ce témoignage. Et merci à tous ceux qui envoient leur témoignage. Alors, si vous êtes dans des situations invraisemblables, n'hésitez pas à nous faire parvenir, parce que les auditeurs découvrent avec nous. Hein.
Oui, alors, on en apprend toutes les semaines sur Démocratie Participative.
Oui, on en apprend, ouais. Bah, ouais, oui.
Gandalf.
Ouais.
En fait, on peut étendre ça, grosso modo, à toute l'Afrique. Faut bien se rendre compte, mais même au niveau des départements d'outre-mer. Le blanc est une valeur sûre, donc se balader avec un blanc est quelque chose de positif. Ce sont des nanas qui sont, tant qu'elles ont la vingtaine, elles sont super mignonnes. Le seul problème, c'est que après, ça commence tout doucement à ressembler à une baleine d'appartement.
Et tu dis les outre-mer, pourquoi les... Tu peux développer un peu ?
Ah ben oui, ben en fait, quand tu débarques à l'outre-mer, que ce soit Réunion, Guyane, tout ce que tu veux, tu vas, dans les premiers temps, te choper toutes les gonzesses qui sont à la recherche d'un blanc, de ce qu'on appelle un métro.
Ouais.
C'est très valorisant, c'est un plus social, et c'est vrai que ce sont de petits animaux fort sympathiques, hein. Tu les caresses dans le sens du poil. À La Réunion, elles ont même une appellation spécifique, on les appelle des couvertures pays.
Ah, ça c'est étonnant, ça, vas-y, c'est quoi le concept?
C'est pour pas avoir froid au lit le soir.
Oh putain.
D'accord, ok.
Donc, c'est très clair que les nanas ont une fierté de sortir avec un blanc. Mais je le dis très sincèrement, tant qu'elles ont la vingtaine, ça va. Quand elles arrivent à la trentaine, est-ce que c'est la bouffe? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est l'air? Il y a un truc. Mais très rapidement, elles se transforment très rapidement en des espèces de monstres d'accumulation de cholestérol, quelque chose de faramineux.
Ouais, ça c'est terrifiant ça. Comment dire? Alors cette tribu en fait, parce qu'il y a une question, c'est pourquoi les hommes de la tribu attendent que des mâles blancs bourriquent leurs femmes? On pourrait se dire les mecs ont pas de fierté ou je sais pas, ou il y a un problème quoi. Et non, ils sont très, très intelligents. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris les mécanismes élémentaires raciaux. Et ils savent que leur tribu sera beaucoup plus puissante en se blanchissant racialement. Donc en réalité, dans une logique de confrontation tribale, importer du sang blanc, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Donc en fait,
et ils font des économies. Ils font des économies parce que si tu laisses les nanas se balader dans les marchés du coin, dès qu'elles ont l'opportunité, qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent des agents de blanchiment de peau pour avoir la peau claire.
Oui, oui, ça c'est le truc. Et puis bon, les filles chez nous veulent toutes être bronzées. Bon, ça, c'est... toujours un peu la même histoire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur notre auditeur? Notre auditeur est en ce moment au Sahara. Non, quand même, je le salue parce que là il est en plein Sahara, là, avec tous les fous. Là, on parlait justement de l'opération. Ça doit pas être simple. Hein. Ça doit pas être. En plus, ils peuvent pas saquer. Ils sont tous en train de se bouffer le feu à longueur d'année.
Je pense que ça doit être quand même moins pire que Saint-Denis. Hein.
Ah oui, c'est beaucoup plus facile à gérer, je pense. Oui. Oui.
Ah, moi, je suis toujours étonné de voir que tous ces gens n'ont toujours pas été touchés par les valeurs de l'humanisme, de l'antiracisme et du féminisme. Et je ne comprends pas.
Et la démocratie dans tout ça, bordel. Non, mais bon, voilà. Non, mais enfin, je note que, contrairement à la France qui a pour doctrine d'importer un maximum de nègres et de promouvoir le métissage avec des nègres pour tomber justement au niveau des nègres, les nègres concernés au Sahara occidental font preuve de plus de bon sens.
Ah puisque c'est eux, pas plus de bon sens, c'est le bon sens absolu. Hein,
voilà, ils ont compris.
Une stratégie de groupe absolument excellente. Hein.
Ils ont compris le principe de l'ascenseur racial. Voilà, ils ont compris.
Oui, en même temps.
Nous on prend l'ascenseur social.
De savoir. Dans les laboratoires du Val-de-Grâce, à mon avis, le troufion doit ramener des trucs qui doivent être pas tristes. Pour l'instant, tout le monde s'inquiète de la nouvelle grippe chinoise, ouais. Mais les ch'touilles du Maghreb, ça ne doit pas être mal au niveau bactériologique.
Ah, ils ont des trucs terribles. Non, ils ont des trucs terribles qu'on ne connaît même pas. Hein. Des trucs qu'on ne connaît pas. Puis en plus, ces gens-là, c'est comme en Chine. Ces gens-là, ils bouffe des animaux, des trucs incroyables. Ils bourriquent des chèvres. Mais comment veux-tu qu'ils n'attrapent pas les pires saletés? Il y a encore des cas de cannibalisme en Afrique. Faut pas croire que ça a été éradiqué. C'est pas vrai. Le cannibalisme, il se porte très bien en Afrique. Pas partout en Afrique, mais dans certains recoins de l'Afrique, je peux vous assurer que le cannibalisme, il se porte bien. Donc, voilà. Alors, donc, bref, la France. La République française, par abnégation, apporte les lumières de la démocratie au Mali et au-delà, au Niger aussi. ad vitam aeternam, pendant que les nègres viennent en France, des mêmes pays d'ailleurs, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe chez eux, pour bourriquer des blanches. Les nègres sont gagnants sur toute la ligne, et nous, on est couillons sur toute la ligne. Merci les juifs. Ah, je vous ai fait un cours de politique africaine accéléré, là. Je sais, c'est peut-être pas du Bernard Lugan, mais c'est...
L'Afrique pour les nuls.
Voilà, c'est... Moi, je crois que...
Je crois que ça pourrait être la préface d'un très beau livre qu'on appellerait « De la nécessité urgente de la désification de nos sociétés ».
Oui, ou « Out of Africa », oui, ça pourrait être aussi le titre. Quelqu'un d'autre sur tout ça, ou on fait une pause musicale, messieurs? Ouais. Petite pause? Allez, une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Ils voudraient nous voir capituler. Nous ne capitulerons jamais. Ils voudraient nous voir renoncer. Nous ne renoncerons jamais. Ils voudraient nous voir abandonner. Nous n'abandonnerons jamais. Ils voudraient nous voir plier genoux à terre. Nous resterons debout et fiers. On nous dit que ce n'est plus la peine, que notre combat est perdu d'avance. Que bien sûr, il y a des problèmes, mais à quoi bon la résistance? Nous refusons cette morale sordide, annonciatrice de notre génocide. Nous luttons, nous gardons espoir, nous préparons François. Ils voudraient nous voir capituler. Nous ne capitulerons jamais. Ils voudraient nous voir renoncer. Nous ne renoncerons jamais. Ils voudraient nous voir abandonner. Nous n'abandonnerons jamais. Ils voudraient nous voir plier genoux à terre. Nous resterons debout et fiers. Dans les hautes sphères, serviteurs de l'éther et du combat, ils financent sur notre terre des fanatiques, les cœurs de Allah, par une propagande orientée, ils enterrent la vérité, impossible à condamner, et ils ont l'impunité. Ils voudraient nous voir capituler. Nous ne capitulerons jamais. Ils voudraient nous voir renoncer. Nous ne renoncerons jamais. Ils voudraient nous voir abandonner. Nous n'abandonnerons jamais. Ils voudraient nous voir plier genoux à terre. Nous resterons debout et fiers. Pour tous nos camarades assassinés ou prisonniers, que ces quelques bien connus accompagnent nos pensées. Alléluia! 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 Aïe aïe aïe. Ils voudraient nous voir capituler. Nous ne capitulerons jamais. Ils voudraient nous voir renoncer. Nous ne renoncerons jamais. Ils voudraient nous voir abandonner. Nous n'abandonnerons. Ils voudraient nous voir plier genoux à terre. Nous resterons debout et fiers. Les poings serrés, nous ne capitulerons jamais. Même contre des milliers, nous ne renoncerons jamais. Contre cette infâme démocratie, nous garderons jamais. Pour la défense de la patrie, nous travaillerons jamais. Pour l'avenir de notre descendant, nous cesserons jamais. Refusant l'obéissance, nous ne reculerons jamais. Malgré les procès.
qui nous sont faits, nous n'y lâcherons
jamais.
Contre les ambus et désertion, nous ne tiendrons
jamais. Jamais. Jamais.
Nous revoici pour la deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode numéro 7. Nous allons enchaîner avec notre rubrique numéro 2, Autisme Radical. Alors là, ça ne peut pas être un intitulé meilleur. Je ne vois pas comment ça pourrait l'être. Vous allez comprendre tout de suite. C'est un article de Terra Femina. Donc là, on a la jonction du féminisme et du progressisme tout court, biologique, j'ai presque envie de dire. C'est parti. Éléonore Laloux figure sur la liste Arras pour tous de Frédéric Le Turc. Ne riez pas, hein. Maire sortant de la ville du Nord. Si les élections penchent en leur faveur, la jeune femme pourrait ainsi devenir la première élue porteuse de trisomie 21.
Ah.
Je suis positive, carrée et déterminée. Je suis une fille qui sait ce qu'elle veut. Alors là, je le fais, vous voyez, avec la voix de quelqu'un de normal, mais je pourrais aussi le faire avec une autre voix. Je sais pas.
Je suis une fille positive, carrée et déterminée. Je suis une fille qui sait ce qu'elle veut.
Voilà. Vous adhérez au projet. J'espère que vous adhérez au projet.
Tout à fait.
Voilà. Assure Éléonore Laloux, 34 ans, à France 3. L'agente administrative à l'hôpital d'Arras a plus d'une corde à son arc, porteuse de trisomie 21. Elle est la porte-parole de l'association Les Amis d'Éléonore, donc ses amis à elle, quoi, hein, qui vise à déstigmatiser la maladie et également autrice. On disait auteur quand on parlait français, maintenant en France on dit autrice. Autrice d'un livre sur sa condition triso et alors, paru en 2014 aux éditions Max Milo. Elle y écrit notamment qu'elle n'est pas, je cite, un poison.
J'ai un chromosome en plus, c'est tout.
Et ça se remarque.
Non, bah, un chromosome de plus ou de moins. Bon.
Bah, tous les trisomiques ont la même gueule.
Effectivement, aujourd'hui, elle s'attaque à un autre domaine, la politique municipale. Et elle entend bien faire bouger les choses une fois en fonction. Je veux amener du peps et de la couleur à Arras, lance-t-elle aux médias locaux, et aussi de la propreté. Je suis parti à Londres l'année dernière et cela n'avait rien à voir avec Arras, c'était propre. Ici, c'est un manque de respect. Il y a des crachats et des excréments dans la rue. Notez bien ça, on y reviendra.
C'est rarement les blancs qui chient dans la rue. Hein,
oui, mais elle a un joker. Elle est triso. Elle n'est pas tenue de tout comprendre. Ceci étant dit...
Non, elle est triso, non. Elle n'est pas daltonienne.
Non, mais c'est presque une excuse, parce qu'en fait, c'est presque une circonstance atténuante, parce qu'il y a des gauchistes, qui est une maladie mentale, le gauchisme, mais qui voient de la merde dans la rue, qui ne font pas le lien avec l'immigration, voyez, par exemple. Donc elle peut quand même dire, voilà, quelque part, j'ai pas tout compris. Alors, elle prêche pour une ville donc plus dynamique, mais aussi plus accessible et plus inclusive, hein, plus inclusion. Frédéric Le Turc, la présence d'Éléonore Laloux est un atout conséquent. Nous souhaitons qu'elle soit élue, qu'elle apporte son courage et son regard, confie-t-il dans un post sur Facebook. Ce sera un enrichissement mutuel. Elle ne sera pas une élue comme les autres. Elle sera une élue à part entière. Alors, il y a une petite subtilité là. Éléonore sera accompagnée par Sylvie Noclerc, sa marraine de cœur en quelque sorte. Putain, comment ils enrobent le truc. Nous serons également accompagnés et coachés pour relever ce défi ensemble, c'est le chemin pour faire changer les regards. Je me retiens. Donc en France, aucune femme porteuse de trisomie 21 n'a jamais été élue au sein d'un conseil municipal, rappelle France 3. C'est une fierté, s'enthousiasme celle qu'on félicite déjà dans la rue. Éléonore Lalou habite dans la résidence inclusive de l'îlot Bon Secours, un projet d'habitation lancé par son père, Emmanuel Lalou, président de l'association Down Up, dédié à la maladie. Son quotidien et son ambition seront relatés aux côtés du portrait de plusieurs autres résidents atteinteux, c'est en écriture inclusive, résidentes, atteintes de la condition, dans le documentaire « J'irai au bout de la lune » de Laurent Boileau, diffusé le 8 avril. Donc il y aura, voilà, ce sera l'occasion d'en faire plus au sujet de l'inclusion, dit-elle. Voilà. Alors, la démocratie se combine plus que jamais avec la trisomie. On est d'accord, hein, ça fonctionne ensemble, plutôt bien.
Alors là, ça arrive. Déjà, on est enrichi par les Arabes, on est enrichi par les Bougnoules, on est enrichi par les PD, maintenant, voilà les Gogoles, ça va être génial.
Tu as oublié les nègres.
Oui, exact.
Ceci étant dit, trisomie, nègre, hein, bon, hein, quelque part.
Bah, hein. Je pense qu'au niveau QI, ça se touche. Hein.
Je sais pas si les trisomiques ont pas un léger avantage, quand même. Mais bon,
pourquoi pas, hein. Non, bah, mais toi, avec un chromosome en plus, qu'est-ce qui pourrait mal aller?
Alors évidemment c'est bon, je suis un peu persifleur même franchement, mais c'est beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît, parce qu'en fait ça montre à quel point la démocratie ne se prend elle-même pas au sérieux. Vous savez, tout le dogme démocratique consiste à faire penser aux gens que des personnes éclairées, uniquement par abnégation et souci du bien commun, et surtout du bien de leurs proches, s'engage en politique pour essayer d'aider. Et donc, la démocratie, d'après le catéchisme démocratique, générerait d'elle-même une espèce d'élite, voilà, où les meilleurs sortiraient du rang pour les autres. Et c'est con, c'est tout l'inverse. La démocratie, ça permet à tous les perdants, à tous les tocards, à tous les ratés, d'obtenir des responsabilités pour plomber encore plus la société. Non mais, c'est fascinant. Mais par un artifice rhétorique, enfin, narratif, quoi, on a convaincu le peuple qui, en fait, a conscience dans sa lourdeur et dans son inertie de sa faillibilité, a conscience d'être nul. Je dis pas que le peuple est toujours nul, c'est pas ça que je veux dire, hein. Mais que livrée à elle-même une foule ne sait pas quoi faire, mais on lui dit par le charme des élections, ce bordel, cette anarchie, se transforme en ordre. Et c'est d'autant plus miraculeux que les meilleurs sortent du rang pour créer cet ordre. Or, c'est l'inverse qui se produit. Et maintenant, et ça c'est curieux, parce que le système, finalement, il y a une espèce d'inversion, dans le message que que l'image... Il y a une inversion vis-à-vis de l'image que le système essaye de véhiculer lui-même, en ne cherchant plus à faire croire à ce miracle, mais au contraire, en disant, grâce à la démocratie, les plus gros ratés vont y arriver. C'est très intéressant, ça. Il y a un retour de...
Mais il y a une astuce, hein. Parce que, évidemment,
oui.
On sait très bien qu'en politique, c'est une certaine classe sociale, hein, qui se présente et qui est élue.
C'est ça.
Donc là, jusque-là, ils se cooptaient entre eux. Bon, c'était déjà... se foutent un peu de la gueule du monde, puisqu'ils prétendent qu'on est tous égaux, hein, ce qui est en pratique évidemment relève de la science-fiction.
Et alors, juste en aparté, cette dame est aussi égale que toi sur le papier. Hein.
Oui, elle est même plus égale que moi, puisqu'elle a un chromosome supplémentaire. Hein. Donc quoi non, non, mais après nous avoir refilé leur gonzesse, maintenant ils vont nous refiler leur taré. Enfin, ces gens-là n'ont pas de race, excusez-moi.
Alors, vu ce qu'on importe d'Algérie, si on commence à recruter chez les tarés, on va avoir des clients là. On va avoir des clients.
Mais déjà, il fallait supporter leurs enfants qui n'étaient pas toujours très doués. Hein. C'était démocratie, c'est clairement pas la méritocratie. Mais là, ils font sortir les trisos, quoi.
Mais oui, mais il y a un plan là-dedans, parce que le brave gars. Il est en train de faire financer sa campagne électorale avec toutes les associations qui vont gentiment défendre les trisomiques. Hein.
Bien sûr, c'est évident.
Le mec, ce temps-là, on a des millions de gens, de mecs normaux,
ouais.
qui sont soit précaires, soit RSA.
Ouais, ouais.
Tu vois, et le type, il déprime chez lui.
C'est ça, tu vois, on parlait d'héroïsme tout à l'heure, je disais en parlant des stades de foot que finalement les jeunes, et les moins jeunes, enfin ceux qui aiment le foot quoi, je parle du foot, enfin ça pourrait être un autre sport, mais c'est simplement les sports populaires, les gens cherchent des héros, enfin cherchent des figures, des exemples qui les inspirent et qui les transportent émotionnellement et symboliquement, et en fait tu fais avec ce qu'on te donne quoi, c'est-à-dire que, ou alors tu crées, et c'est très difficile de créer, peu importe le domaine. Et tu te rends compte que toute la trame, parce qu'on touche au cœur du truc, et je m'en voudrais de revenir à Nuremberg, hein, mais il faut bien y revenir. D'ailleurs, il nous y ramène constamment. Si vous avez des trisos aujourd'hui en politique, c'est à cause de Nuremberg. C'est parce que Action T4, parce que ceci, cela. C'est toujours la même chose. Il y a une échelle des perdants, vous savez. Mais l'échelle des perdants, ou l'échelle des victimes, est devenue l'échelle des gagnants dans une société dégénérée démocratique. C'est un pléonasme, pratiquement. Et ça devient tellement un pléonasme que ça se manifeste devant nos yeux. Hein. Vous avez vu, voilà, Arras, la liste, voilà, la liste progressiste, machin. Qu'est-ce qu'on fait? On vous met une triso. C'est-à-dire, par définition, quelqu'un qui est incompétent pour quoi que ce soit. Alors, à la tête d'un petit boulot, des petites fonctions, etc. Tant mieux. Enfin, je veux dire, si quelqu'un qui a un handicap lourd, je parle mentalement, arrive à remplir une fonction, etc., ça lui enlève pas son mérite. Mais soyons sérieux, ne mélangeons pas tout. Elle n'a pas les capacités d'une femme ou d'un homme normalement constitué. D'ailleurs, ils disent, elle aura une marraine de cœur. C'est quoi ces mots à la con?
Marraine de cœur. Un tuteur, quoi.
Elle aura un tuteur pour s'assurer qu'elle appuie pas sur le mauvais bouton quand elle va voter. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Hein, pour pas qu'elle vote contre le maire, alors, dont elle appartiendrait la majorité. Vous voyez? Donc, on est en train d'entuber les gens avec une narration à la con pour valoriser les victimes. On est dans la logique de la victime. Le victimaire ouais, a tout bouffé.
Ce que je dis pas, c'est que c'est un jeu de dupes. Parce bien que sûr. le mec en bas de l'échelle, qui lui a un gamin trisomique et qui est obligé de le porter à bout de bras pour essayer d'en faire quelque chose, c'est pas son gamin qui va se présenter à la mairie. On est bien d'accord.
Bah, tout à fait.
Mais ce que je veux dire, contre, lui, il va bien galérer.
Ce que je veux dire, c'est que tu as une idéologie victimaire avec ses prêtres, sa narration, ses saints, voilà. Et ces héros, et donc on les porte au nu, et tu as... Mais sauf que ça fait pas une société, enfin ça fait pas une communauté ça fait pas du tout une communauté, mais ils le prétendent. Et du coup, tu as tous les gens normaux, mais par définition, qu'est-ce que ça veut dire normal? Normal, c'est l'écrasante majorité des gens, c'est ceux qui ont toujours porté tout sur leurs épaules. Ces gens-là sont complètement effacés du tableau. C'est très net, et typiquement, l'homme blanc hétérosexuel, c'est lui qui perd dans la course, quoi. Je veux dire, il est jamais qualifié. Alors ça veut pas dire qu'il y a jamais aucun blanc hétérosexuel qui exerce de responsabilité, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais dans la narration, dans les représentations collectives, dans ce qui est sanctionné par les médias, et aujourd'hui les classes dominantes, très clairement, ce n'est pas d'être un blanc hétérosexuel viril et martial qui est valorisé. Ce qui était un héros, hein, comme Léonidas de Sparte, voilà, ça c'était un héros, par exemple. Pour ne citer que lui, hein, je veux dire, je pourrais citer Alexandre le Grand ou d'autres. Non, maintenant, on a des trisos. Ça en dit tellement long sur l'état de cette société, sur ce système, ces valeurs, que... Moi, je vois pas comment ne pas être dégoûté par ça, quoi. Je vois pas comment ne pas être dégoûté, même physiquement, par ça. Il n'y a rien de valorisant, il n'y a rien de grand, il n'y a pas d'élan, c'est de la merde, intégralement. Et c'est bizarre. Enfin, il y a cette forme de terrorisme, j'allais dire c'est bizarre, personne ne réagit, mais en même temps il y a cette forme de terrorisme qui vous voyez, parce qu'on fait pleurer, on fait apitoyer ça.
La réaction est encadrée, hein, tout ce qui est les marginaux gauchistes et compagnie sont, ouais. Ils sont là parce que ce qu'ils racontent ça va dans le sens du vent, hein. On parlait tout à l'heure des types absurdes qui étaient qui voyaient le retour d'Adolf Hitler dans les jeunesses les JAPD. Hein,
ouais, la JAPD, ouais, voilà.
Voilà, donc bon, avec
mais on t'a vu, ça, mais qui, t'as vu, c'est toujours la même chose, en fait.
Ouais, oui. C'est sans décennie, là, ce genre. Hein.
Non, mais tout ça pour dire qu'il y a cette castration intellectuelle et psychologique et qu'il y a le chantage... Enfin, c'est vraiment du terrorisme. C'est du chantage à l'insulte à la victime. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit... et tout le monde a la trouille d'être un salaud. Les gens ont peur d'être des salauds. Entre guillemets, d'être traité de salaud. Parce que vous ne larmoyez pas devant une victime décrétée par le système. Alors, le nègre est clopé, le réfugié du Soudan qui vient de Syrie et du Pakistan, la pétasse à nègre qui s'est fait briquer par la quatrième fois, mais qui, comme par hasard, est battu jusqu'au sang, etc. Tous ces trucs, vous êtes... C'est tous les perdants, il faut chialer, c'est la culture de la chialerie. Vous pourrez pas gagner dans ce paradigme-là sans être un salaud. Pour ces gens-là, vous serez un salaud. C'est-à-dire, si vous refusez de chialer avec eux sur tous leurs mendiants et leurs éclopés, vous serez un salaud. Donc il faut assumer le fait d'être un salaud. Pour eux, ce qu'ils appelleront être un salaud. Mais pour nous, être quelqu'un de normal. Mais il ne faut pas hésiter à dégueuler sur les ratés. Il faut dire aux ratés que ce sont des ratés, d'accord ? C'est pas pour se dire soi-même qu'on est un être extraordinaire, mais c'est simplement pour dire, attendez, il y a une norme, elle est observable objectivement, qu'on arrête de nous raconter des cracks, quoi. Et tant que les gens auront la trouille, justement, surtout les bourgeois, parce que les bourgeois ont toujours peur, tant que les gens auront cette trouille de se faire traiter de salauds, ils bougeront pas. Fermons leur gueule, voilà, oh tiens, regardez, voilà, encore un man. Là, vous avez pas vu le taré, j'ai vu encore ça. Un pouilleux, tiens, il a trouvé une terre d'élection en Bretagne, comme par hasard. Un nègre qui débarque de son Cameroun natal, machin, il atterrit chez Ruquier, etc. Il est canonisé de son vivant, le mec. Vous avez pas vu ça? Le mec, il explique, ah mais quand même, les Français se plaignent trop. Les jeunes Français se plaignent trop, voilà. Enfin, ils se plaignent trop, d'ailleurs, ils parlent des machins, mais... Vous voyez lequel je dis?
Ouais.
Bon. Le mec est canonisé, qu'est-ce qu'il a fait?
Ulrich Cabrel.
Ouais, Ulrich Cabrel, ouais, un Camerounais. Ouais. Camerounais, je sais pas. Mmh. Non mais voilà, non mais, faut voir.
Dans la France.
Non mais c'est ça, c'est-à-dire que voilà, alors lui il est canonisé, alors et qui d'autre encore là, réfugié politique, encore des Talbani, tous ces trucs, tu vois, je veux dire, des trucs improbables. À la chaîne. L'usine dysgénique. La France.
Bah, par contre, toi, essaye de te présenter aux élections dans le cadre d'un parti national-socialiste, tu vas voir à quelle vitesse tu vas te faire balayer.
Non, bah, bon, tu vois, je suis pas idiot. Je sais très bien, si tu veux, bon, le national-socialisme en France... Je suis pas idiot, je veux dire.
Présente-toi
un homme hétérosexuel blanc, voilà.
Non, mais ne serait-ce que j'en parlais tout à l'heure, Agnès Serigeli, qui est du parti de Macron, elle dit oui, non, mais pour avoir l'investiture, il faut être noir et arabe maintenant. Même dans les partis majoritaires,
ouais.
il faut être une minorité oppressée. Alors, soit tu es un homosexuel, soit tu es un juif. Bon, là, c'est le passe-droit, effectivement.
Qualité pouvant se cumuler, comme dans le cas de Majoubi.
Oui. Oui, Yann Brossa. Hein,
aussi.
Cumulard. Yann Brossa, etc. Bon, il y a plusieurs des cumulards. Et si tu n'as pas ça, si tu es un blanc normal, ben non, mais tu n'auras pas l'investiture du parti. Tu n'es pas assez républicain.
Et si je suis une femme falacha, handicapée moteur et trisomique, est-ce que je suis élu président du monde?
Là, non, tu gagnes plus de 20 points en direct.
Oui.
Non, mais pour prix Nobel, en tout cas, tu peux certainement être nominé au prix Nobel. Peut-être pas le recevoir, mais nominé au prix Nobel, c'est tout à fait jouable. En tout cas, messieurs, est-ce qu'on peut dire que la démocratie relève de la maladie mentale? Je pense que, en tout cas, la République française essaye de s'efforcer de le démontrer, je crois que c'est clair. Alors,
ça relève de la trisomie 21.
Alors, je précise...
Ouais, Il y a aux États-Unis, il y a une ville où ça fait des années qu'ils élisent un chien dans un banc commerce parce que bon voilà pourquoi pas un chien, ça marche très bien.
En fait, moi j'ai envie de, c'est ce que je voulais dire peut-être en forme de conclusion là-dessus, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est-à-dire que je souhaite bien évidemment que la liste de Monsieur Le Turc, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais
Il a une bonne tête, monsieur Le Turc.
Oui, mais il y a des questions à se poser. Quand même. Donc, je veux dire au niveau généalogique. Donc, non, attention, je vais pas dire. Parce que si on va me prêter encore parce que peut-être qu'il y a une explication généalogique, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un Français qui a été en Turquie, alors quand il est revenu, on l'a appelé Le Turc. J'en sais rien. Voilà. Bon, bref.
C'est douteux, c'est douteux.
Disons que l'enquête est ouverte, l'investigation est en cours. Alors, pour en revenir à notre oiseau, là, machin, là, qui manque une aile, d'ailleurs. Alors, bon, je suis pour son élection. Parce qu'au fond, la démocratie est en train de se saboter elle-même de la meilleure des façons. C'est la démocratie qui prouve son incapacité à être ce qu'elle est. C'est-à-dire que c'est une impossibilité dans les termes, la démocratie. Hein. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, on élit des nègres, on élit des trisomiques, puis quoi, la femme à barbe, et allez savoir quoi d'autre. Et maintenant, à l'épreuve du temps, qu'est-ce qu'il va faire démonstration de sa force? C'est certainement pas ce régime pourri. Voilà. Donc, je suis très à l'aise, finalement, avec leur triso à Arras. Bon, à Arras, ils ont quand même une coutume de nous expédier des mecs vachement bizarres. On a quand même Robespierre qui vient d'Arras. Hein, quand même. Alors, Robespierre, c'est un autre sujet. Je reconnais que parfois, il a eu raison sur certains points. Et d'autres fois, ça n'allait pas du tout. Il était très symptomatique aussi, déjà, de la gauchisation radicale de l'esprit français, quoi. Très ambivalent tout ça. Enfin, Arras, quand même. Entre Robespierre et la Triso, je veux dire, il y a quand même un monde, quoi. On est quand même d'accord.
Cette histoire que tu as rappelée, Eric, ça me fait rappeler finalement l'histoire de la Belgique qui a été sans gouvernement, finalement, pendant. Oui. Bah, je ne sais plus combien de temps, Fulbert, mais pendant un petit moment. Ça a duré plusieurs mois, je crois.
Non, mais ils n'ont pas de gouvernement.
Ouais, voilà, mais il y a un an, quelque chose comme ça.
Ah, vous avez un gouvernement maintenant?
Non, ça on sait plus, tu sais. Mais le pays se portait très bien, l'économie était à fond et tout, enfin, pas de problème.
Enfin, il se portait très bien, non, il se porte aussi mal, disons.
Voilà, oui.
Il se porte aussi mal. Bon, l'économie, elle suit son cours, parce qu'en fait, croyez-le pas, l'économie, c'est pas les politiciens, hein, c'est les gens qui bossent au quotidien, l'économie. Hein, tu sais, les gens, ils sont là. Non, mais franchement, les politiciens, ils osent tout. Ils disent, le chômage, etc. Non, mais c'est pas de la faute des politiciens. Les politiciens peuvent améliorer les performances du pays. Quand ils limitent leur capacité de nuisance. Donc en fait, c'est quand ils se réduisent, quand ils acceptent eux-mêmes de réduire le périmètre de nuisance qui est le leur. À ce moment-là, l'économie se porte mieux.
Imagine-toi en France, si on n'avait pas d'État. Quelle horreur, ça serait terrible, on ne pourrait plus créer de taxes. comment on ferait? On ne pourrait pas vivre.
Et les urgences? Comment qu'on ferait pour les payer?
Comment on ferait pour les urgences? Ça ne pourrait pas.
Eh ben non. Vous allez laisser mourir les jeunes maghrébins poignardés entre eux pour une histoire de shit au bord de la route? Vraiment? J'ai parlé du projet de double file d'attente pour les urgences. Hein. J'ai dit tout le bien que je pensais. Alors, je vais pas dire. Ah non, parce que sinon, on va encore m'agonir d'un jour. On va dire, il dit du mal des urgentistes. Je dis pas du mal des urgentistes. Je dis du mal des syndicalistes de gauche qui sont planqués aux urgences, qui refusent d'appeler à une solution globale à la question afro-maghrébine. C'est très différent.
Surtout qu'ils sont en première ligne pour les voir, hein, quand même. Hein.
Donc, s'ils continuent à leur lécher le cul, qu'ils aillent se faire foutre. Des réclamations? Vous me voir non, non. Si vous avez des réclamations.
Mais, tu vois, c'est marrant parce que tu parlais au début, Gandalf, tu t'excusais à moitié de ramener Nuremberg finalement sur le devant de la scène. Mais en fait, on y est déjà de force, hein, parce que.
75
comme l'a rappelé déjà le premier courrier. Ce sont nos contradicteurs qui renvoient tout aux nazis, hein, à chaque fois, systématiquement. Je pense finalement, là, on vit encore une étape de plus, finalement, dans la conséquence de la défaite, hein, de la Seconde Guerre mondiale. Parce que je le rappelle, on a perdu la Seconde Guerre mondiale. Hein, les Juifs ont gagné la Seconde Guerre mondiale. La France.
Il y a des gens qui ne sont pas trop sûrs de ça, parce qu'ils disent, on a gagné, je ne comprends pas.
C'est bizarre.
On a gagné la guerre, je comprends. Non.
Parce qu'on a l'air d'être envahi quand même.
On a saboté un petit peu, on a saboté les Boches, donc on a gagné vers la fin.
Oula. J'ai vu une très mauvaise vidéo. Une très mauvaise vidéo à propos d'un bombardement présenté comme héroïque en 1940 sur Berlin. Mes aïeux.
Éveil liberté.
Avant d'entamer la discussion de la semaine, peut-être pouvons-nous nous arrêter sur un cas aggravé de discrimination raciale à Rouen. C'est une vidéo qui nous a été communiquée par un auditeur et qui a pu, nous faire partager l'état d'avancement du projet républicain, justement, en Normandie, vous savez, la terre des Normands. Vous savez, c'était il y a très longtemps un peuple nordique qui venait de Scandinavie, ça. Là aussi, les choses évoluent. Cas flagrant de discrimination, je vous propose d'écouter et on se retrouve.
Vous parlez, vous direz ? J'ai commandé un jus d'abricot, pas un jus d'orange.
C'est pour ça ? C'est vraiment pour ça ?
Bonsoir.
C'est pour ça ?
Alors, je voudrais justice au neuf, je sais même pas où on est vous, à la discrimination raciale, au 96.
Discrimination raciale,
petit pépé. Ludovico, c'est un bar, c'est la première délirium café.
Elle est vraiment en train de se taquer parce qu'elle est un jus d'orange, elle a peut-être un jus d'abricot là.
On va en faire une panade, je suis menton, une pas. Discrimination raciale. On a tout de suite. Il est là, il est sur le mur, on a tout de suite. Il m'a gazé.
Elle est pas du tout en train de téléphoner. Elle dit, elle m'a gazé, il l'a pas gazé du tout.
Je suis mort. Alors, messieurs, c'est très bref, ça n'appelle pas une longue conversation, mais. C'est assez typique des embrouilles à la con que connaissent tous les établissements de nuit, beaucoup d'établissements de nuit ou des restaurants, pour pas parler des particuliers d'ailleurs. Les accusations fallacieuses de racisme par des nègres hirsutes. Et vous savez, on a un petit peu avant dans l'émission parlé justement là c'était pour les cas de sexisme, vous savez, c'est-à-dire de changer la définition de l'accusation, de la qualité de l'accusation, je sais plus comment formuler ça, mais que la preuve de la charge n'incombait plus exclusivement aux accusateurs, mais aussi aux défenseurs. Je pense qu'on arrive dans le même cas de figure, c'est-à-dire que finalement ça se tient, c'est le même système, c'est cohérent idéologiquement, et il suffit d'accuser, enfin un nègre pourra accuser n'importe quel blanc de racisme, enfin n'importe quelle entreprise, enfin une boîte quoi. De racisme et à charge pour l'entreprise de prouver sa bonne foi. C'est inévitable, on arrive vers ça. Et cette négresse, parce que les nègres, aussi cons soient-ils, savent quand même comment abuser du blanc, ils savent que ça marche, parce que quand vous répondez positivement aux accusations de racisme, c'est un jeu de chantage qui ne se termine jamais. C'est pour ça que, tôt ou tard, je dis un tôt ou tard, ça peut être dans un an, ça peut être dans 50 ans ou dans 100 ans, tôt ou tard, il faudra assumer le racisme blanc. Parce que au bout d'un moment, il faudra bien que vous disiez bon maintenant stop. C'est aussi simple que ça. Tant que vous cédez à l'accusation de racisme, vous perdrez, ça c'est clair. Et c'est la manifestation de ça. Alors c'est ridicule et c'est précisément ça qui est intéressant, c'est que c'est ridicule. Elle commande un jus d'abricot, dit-elle. Elle n'a pas reçu son jus d'abricot, elle a reçu un jus d'orange. Et pour elle, c'est une discrimination raciale. Une discrimination raciale. La police, tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez me dire de cette Normandie transfigurée par la négraille tricolore, dont est si fier le président Macron d'ailleurs. Ouais, dégueuler un peu sur le nègre, là.
Oui. Le nègre en question avec des seins.
Oui.
L'animal.
Particulièrement, c'est une boule, quoi. C'est une espèce de quental. Un quintal de matière noire.
Alors, imagine ça, c'est ta boîte. Imagine, c'est ton bistrot. Elle te monte un char, etc. Bah non, mais voilà, c'est... Là, les gens, la démonstration. Là, ceux qui nous écoutent ont la démonstration. Voilà ce que c'est que ces gens. Voilà. Ils ont compris l'arnaque. Et ils vont la réutiliser. Parce qu'ils ont fait réécrire les lois. Les juifs ont écrit les lois pour s'assurer que les blancs soient en minorité chez eux, que ce soit des parias chez eux, ils ont un seul droit, c'est de fermer leur gueule chez eux. Et vous pouvez même plus régler votre établissement sans vous taper une négresse qui va se taper une crise parce que voilà, c'est pas le bon jus d'orange, je sais pas quoi. De ce qu'elle dit, voilà. Quand vous mettez des étrangers dans un pays, tout de suite, la concorde civile s'effondre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. La confiance s'effondre, la défiance s'installe, on ne peut plus faire d'affaires, on ne peut plus aller...
Surtout quand il s'agit de sauvages, parce que bon, c'est nègre, par exemple. Si vous êtes propriétaire de logement, est-ce que vous iriez louer
un appartement à ce genre de nègre. Bon, non, évidemment, ça ne va pas payer, ça va chier partout, bien entendu. Hein, ça va cuisiner à même le sol.
Ça va amener des coteries, hein, là, bien sûr.
Oui, non, mais ça va oui, ramener ses
semblables,
cousins semblable, à gauche. Ouais. Ça va détériorer, ça va tout saloper, ça va aller des nuisibles, hein. Ils vont vivre avec les rats, les cafards, en plus des nuisibles de leur famille. Non, là, c'est-à-dire que nous essayons de créer une société qui, avec un haut degré de confiance, avec des sauvages. Ça n'est pas possible. J'ai vu ce cas, j'ai vu son clone, moi, cette espèce de gros nègre. C'était pour... elle engueulait des Chinois, un blanchisseur chinois par rapport à des vêtements. Je veux savoir pourquoi. Donc elle hurlait. Hein,
ouais.
Sur les Chinois. Puis après, elle sortait. Donc elle se faisait filmer en train de hurler. Et une blanche qui dit oui, mais attendez, s'il vous plaît, parlez un peu moins fort. La nana qui était là, qui fumait sa clope pendant sa pause, petite nana, tu vois, d'une cinquantaine d'années, elle est rentrée dedans, elle lui a foutu un coup de poing. Quoi, hein. Normal. Donc on vit avec des animaux.
On vit avec des animaux.
Avec des sèches. C'est-à-dire, on a une société à haut niveau de.
Oui, de confiance, comme confiance, tu l'as dit.
Avec des singes. Avec des singes, quoi. Ça ne peut que ne pas marcher.
Macron veut s'assurer que tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle garantisse l'égalité, notamment au plan de l'inclusion des nègres dans la production de robots. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui.
C'est ce qu'il avait. Il avait un grand discours sur l'intelligence artificielle. C'est
oh oui,
Macron il fait des grands discours sur tout. Le mec est ambitieux. Hein. Bon, il arrive. Bon, discours sur tout. Intelligence artificielle. Voilà.
Oui, il parle beaucoup. Quoi.
Oui, il parle beaucoup. Et là, il dit. Alors, j'écoute le discours. Il dit en fait. Et quand tu écoutais le discours, en fait, le but de l'intelligence artificielle, c'était pas en fait les possibilités technologiques. C'est là que tu vois qui écrit les discours, quoi. C'est des putains de marxistes, quoi. Les mecs t'expliquaient que le but de l'intelligence artificielle était de permettre à des nègres et à des femmes de produire des robots. C'était ça la finalité. Le but ultime des recherches dans le domaine, c'était de permettre à des femmes et des nègres de faire des trucs. Donc en fait, l'intelligence artificielle devenait totalement périphérique à elle-même, quoi. Et bon, ça gouverne la France. D'accord, ça gouverne la France, ça tient les journaux, ça tient les grandes radios, etc. Ces tarés tiennent tout. Ces gens sont des fous. Ils tiennent tout. Donc les mecs vous banalisent la dystopie. Ils vous la banalisent, mais à échelle industrielle. Les gens sont comme des zombies, ils voient rien. La zombification de masse, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu vois. Mais, vous savez...
Non mais.
Le père Staline, vous pouvez le faire sortir du frigo, etc. Le mec, lui, il fonctionnait avec ses commandos du KGB, etc. Enfin, du NKVD, ouais. Là, bon, c'était un artisan, c'est un artisan géorgien, je n'en veux pas, je veux dire, bon, il avait fait fourbi ses armes, bon, il sortait d'une espèce de comment dire, d'un séminaire, et il s'était fait les armes dans le braquage, etc. Bon, le mec a appris sur le tas, tu vois, bon. Mais attention, hein, je veux dire, c'est un amateur à côté, hein. C'est un amateur, hein. Les mecs ici, t'as pas une balle qui fuse dans l'air, toute la population, elle file droit, y a pas un mot. Et les mecs font n'importe quoi.
Ouais, ils filent à l'abattoir.
Et ils font n'importe quoi. Staline n'aurait jamais pu convaincre les Russes d'importer des nègres par million. Il aurait pas pu. Même avec des commandos entiers de Sacheka. Il aurait pas réussi. Les Français y parviennent sans une balle. Enfin, sauf celle des Arabes et des nègres qui tuent des Français, bien sûr. Mais ça, c'est... inhérent au projet.
Ouais, c'était tribu.
C'est un tribu. Mais écoutez, puisqu'on parle de Français assassinés par...
Je veux juste revenir sur un petit point, Godref, si tu me permets, très vite fait.
Oui, bien sûr.
Sur cette histoire de négresse qui gueule pour des jus d'orange, là. Tout ça prouve bien que finalement, si vous voulez à chaque fois vous défendre de l'accusation du racisme, bon bah c'est sans fin. À la fin, vous vous retrouvez avec des gens qui vont vous gueuler dessus parce que il y aura un jus d'abricot qui sera apparu à la place d'un jus d'orange. Bon,
mais ouais,
voilà.
Vous êtes littéralement Hitler parce que quelque part, le jus d'orange, c'est pas un jus d'abricot.
Ouais. Alors...
Non, mais.
Encore heureux que ce ne soit pas un verre de lait. Est-ce que tu sais que le lait. Aux États-Unis, t'avais des trucs de polémique comme ça, parce
oui,
que
oui,
le lait,
oui.
Le smiley du lait était considéré comme raciste, enfin bref.
Non, donc, mais tu sais, quand t'es passible de Nuremberg, parce que quelque part tu t'es gouré entre l'abricot et l'orange, moi je dis à ce tarif-là, pourquoi ne pas être carrément coupable dans les faits et revendiquer absolument tous les crimes? Je veux dire, non, mais quitte à être coupable.
Ouais. Bah oui, parce que de toute façon, ces animaux-là, africains-là, eux, ils connaissent tous les trucs de la loi sur le bout des doigts, tous les petits avantages qu'ils peuvent gratter.
Mais bien
ils les
sûr.
Connaissent mieux que le député qui a pondu la loi, quoi. Ils les connaissent par cœur.
Mais c'est ça qui est insupportable avec cette démocratie. Tu as des connards qui sortent des écoles à la con, où on t'apprend à penser comme un con, parce que les profs sont des cons, c'est du copier-coller, tu vois, de génération après génération. Les types sont hors sol, ils se rendent pas du tout, ils font de la merde, et ils se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer, ils se rendent pas compte de la transformation qui est en train de s'opérer en France, et ailleurs dans les autres pays occidentaux d'ailleurs. Bon, et les mecs attendent qu'on respecte la loi, tu vois, tu vois la sauvagerie progresser à une vitesse incroyable dans toutes les villes de France, les villes de plus en plus petites d'ailleurs. Les mecs sont toujours aussi déconnectés, ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ils sont en train de catéchiser. Ah ben oui, mais les valeurs de la République, je ne sais même pas de quoi ils parlent. Quand tout commence à tourner aigre, comme Valls, là, les mecs se tirent en Espagne pour épouser des vieilles morues milliardaires et se la couler douce sur la Costa Brava. Tu vois, c'est hallucinant ce qu'on vit. C'est hallucinant. Et sans la zombification, il y aurait longtemps qu'il y aurait une révolution. Mais les gens sont tellement abrutis par la télévision, par le sport de masse, par les conneries, par tous les poncifs. Les gens ne sortent pas de leur... Enfin, il y en a qui sortent, mais combien de tocards sont complètement dans la glu, quoi. Ils se posent aucune question. T'sais. Et puis, t'sais, alors, le pire, tu sais, quand c'est comme nous, quand t'es un affranchi comme nous, t'sais, quand tu t'es fait... quand t'es dessalé comme nous. Ça, c'est une expérience qui est vraiment désagréable. Vraiment, ça m'est arrivé. Je pense que ça vous est arrivé aussi. Vous savez, vous avez des amis d'enfance ou des connaissances que vous avez eues jeunes, vous savez. Et puis vous les voyez pas pendant 10 ans, vous savez. Ou 15 ans. Et puis vous les revoyez. Et t'as l'impression que tu reprends la discussion où elle était arrivée en 1998. Tu dis, merde, c'est bizarre, quand même. En fait, tu te rends compte que quand tu te déniaises, tu sors de la matrice, quoi. Tu prends la pilule rouge et tu découvres le monde tel qu'il est. Tu te rends compte à quel point les gens sont zombifiés. Et tu sais, tu te dis, merde, ok, d'accord, le mec, là, il est quand même vachement, vachement, vachement perché. Mais il n'est pas plus perché que les autres, donc je vais y aller mollo, je vais pas tout balancer d'un coup, je vais voir ce qui prend pas, tu vois. Mais il y a très peu de gens qui sortent de la matrice. Hein. Et c'est très difficile quand t'es un mec... Bah, parce que nous, je pense que la démocratie participative, je crois pas qu'il y ait... En dehors de la matrice, je crois pas qu'il y ait. Bah, à mon avis, je crois pas que ça existe, je crois pas. Mais peut-être, après tout, hein, y a peut-être un truc qu'on a loupé, mais grosso modo, on est quand même bien sorti de la matrice, et quand t'es comme ça... C'est très difficile d'être à la fois dans la matrice et en dehors de la matrice. C'est quand même...
Il y en aura peut-être un qui nous verra dans la matrice pour quelque chose. Les initiés sauront de quoi je parle. Mais ouais, enfin, bref.
Alors, messieurs, discussion maintenant peut-être. Un truc qui m'a ému. Ému parce que c'est tellement injuste. Je vais vous lire un article du Parisien. C'est, vous savez, c'est avec l'histoire de l'autre et de sa bite là, on parle plus de rien quoi. La France s'arrête parce que la bite de Griveaux. Bon, bref. Mais il y a des choses graves qui se passent. Il y a des gens qui souffrent. Et j'ai envie qu'on parle des. Je préfère qu'on parle des gens qui souffrent plutôt que de la bite de Griveaux. Je pense que mes auditeurs me comprendront. Bon, voilà. L'éleveur de la Marne qui a tiré sur son voleur avait été cambriolé entre 40 et 50 fois. Article du Parisien. Alors pour le coup, je les félicite aux Parisiens, même s'ils font aussi beaucoup de merde pro-immigrés. Ils ont envoyé des gens dans le village, des journalistes, un journaliste, et rencontrer, aller au contact. Et c'est pas du tout un reportage de salaud, au contraire. Il y avait beaucoup de compassion dans ce reportage, donc je vous le livre, hein, je vous le lis. Et j'ai bien aimé, donc je vous... voilà. Donc, l'exploitation est au bout du village d'Ambrières, dans le sud-est de la Marne. Les grands hangars donnent sur les champs. L'atmosphère est calme. Ce mercredi matin... L'atmosphère est calme ce mercredi matin. Au volant d'un tracteur, l'ouvrier agricole de l'entreprise Leroy Loisy verse du foin pour les bêtes. Elles sont plus de 200 à patienter. L'ouvrier descend de son engin, précise d'emblée qu'il ne parlera pas. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février dernier, son patron, Jean-Louis Leroux, a tiré sur un jeune homme de 19 ans, issu de la communauté des gens du voyage, soupçonné d'avoir essayé de lui voler du carburant dans son hangar. Depuis, Jean-Louis Leroux dort en prison. Alors, je précise qu'il a été libéré sous condition. Attention, l'affaire n'est pas terminée du tout, c'est que le début des emmerdes. Mais sous la pression populaire, il est sorti de prison, je le précise tout de suite. L'agriculteur de 46 ans est mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Il se sent comme un homme qui a l'habitude de sortir avec ses bêtes et qui, aujourd'hui, est enfermé, témoigne son avocat, maître Gérard Chemla. Il s'inquiète également de l'état de santé du jeune homme. Le pronostic vital de la victime, touché à l'intestin et au côlon, n'est plus engagé, mais elle risque des séquelles à vie. L'affaire suscite une vive émotion au-delà de la Marne et du monde paysan. Une marche de soutien à Jean-Louis Leroux est organisée ce jeudi matin à Reims, à quelques kilomètres d'Ambrières. Cet agriculteur du village d'Ille-sur-Marne entend y participer. « Je n'ai jamais été cambriolé dans ma ferme, comme Jean-Louis, mais tous les ans, je me fais piquer du fioul dans les champs. Et quand ce n'est pas du fioul, c'est du matériel », raconte l'exploitant agricole au sortir de son repas. Chez les agriculteurs de la région, on constate beaucoup de vols de carburant, de capteurs GPS, voire même de tracteurs, explique Hervé Lapi, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles FDSEA pour la Marne. L'organisation est à l'origine du rassemblement de soutien en lien avec les jeunes agriculteurs via sa page Facebook. Les propriétés privées sont aussi touchées par le phénomène. Humainement, tout le monde se reconnaît en Jean-Louis, jure Hervé Lapi. Un escalier vieillot mène au premier étage de la mairie d'Ambrières. Derrière la porte, en bois, Denis Drouin, maire de la petite commune depuis 31 ans. L'élu, qui ne se représentera pas aux prochaines élections municipales, est dépité de finir son mandat par quelque chose de dramatique. Les cambriolages sont légion depuis quelques années dans le coin. Courant décembre, il y a même eu 8 tentatives dans la même nuit, dit-il. Didier Drouin ne manque pas d'anecdotes à propos des vols, à l'image de ces panneaux de signalisation subtilisés avant même d'avoir fini de les payer. Et ce, malgré les patrouilles de gendarmerie, de jour comme de nuit. Contactés, ni la préfecture, ni la gendarmerie n'ont souhaité communiquer sur le sujet. Reste à savoir qui fait les coups, s'interroge Didier Drouin, qui envisage d'installer des caméras pour surveiller sa commune. Il y a bien eu des arrestations de gens du voyage, mais pour les autres vols, on ne sait pas. Les habitants et les agriculteurs préfèrent garder le silence par peur des représailles. Les villages du canton sont isolés de tout, surtout des gendarmeries. La plus proche se situe à Vitry-le-François, à 25 minutes de voiture. Difficile d'intervenir rapidement. Jean-Louis Leroux a été cambriolé entre 40 et 50 fois depuis 2015, y compris la veille des faits, indique Denis Drouin. Il y a de quoi être excédé, s'insurge l'élu de 75 ans. L'agriculteur, père de 2 enfants, a déposé entre 25 et 35 plaintes ou mains courantes pour ses multiples vols, confirme son avocat. Mais il n'y a pas eu de suite, car pas d'identification. Jean-Louis Leroux est investi dans la surveillance citoyenne de sa commune en collaboration avec la gendarmerie. Cette dernière reprend aussi contact avec les agriculteurs grâce au dispositif Demeter, une cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole mise en place par le ministère de l'Intérieur fin 2019. Mais ont-ils les effectifs suffisants ? Questionne Hervé Lapi. Le président de la FDSEA garantit que la marche de soutien à Jean-Louis Leroux servira à interpeller les pouvoirs publics pour faire bouger les choses dans les zones rurales. Quant à l'agriculteur marnais, Il saura en fin de matinée s'il sera remis en liberté provisoire dans l'attente de son procès et retourné dans son hangar pour nourrir ses bêtes. Alors, il a été libéré, effectivement, sous la pression, en fait, du monde paysan de la Marne qui s'est mobilisé. Quand même, il y a eu 500, environ 500 paysans qui ont fait le déplacement pour exiger la libération de ce fermier. Alors, voilà, c'est un reportage très intéressant, très percutant, sur la réalité, une réalité très sous-médiatisée, c'est le cas de le dire, en fait, de la sauvagerie qui s'installe aussi dans les campagnes. Alors, attention, c'est pas la même sauvagerie. Mais nous avons des bandes, des hordes de bohémiens, de tziganes, de roms, qui errent en toute liberté, en fait, parce qu'elles ne sont pas réellement stoppées, et qui détroussent propriétés, fermiers, avec la facilité qu'offre l'étendue des espaces. Par définition, il est certain qu'on ne peut pas les interpeller aussi facilement qu'en milieu urbain fermé. Alors, on n'en parle jamais, on ne parle pas de la détresse des campagnes vis-à-vis de ce type de problème. Qu'est-ce que vous avez envie de m'en dire? Parce que le paysan en question s'est défendu face à un rat issu de la communauté de Tzikane, je présume. Qu'est-ce que vous voulez m'en dire?
Ouais, bah ça c'est toujours un débat légitime qu'on a sur la légitime défense. Bon, parce qu'en fait, effectivement, nous on est de droite. Donc on a tendance à vouloir être légaliste et respecter la loi, et peut-être souvent la loi à tout prix. Là, il y a une différence à faire, quoi. Respecter la loi, d'accord, mais respecter la loi même quand elle est mauvaise, non, excusez-moi, je doute. Donc moi, c'est pas mon optique. Je comprends tout à fait ce pauvre paysan qui, finalement, bah, il n'en aurait le cul. Le mec est en 40, 50 cabriolages. Non, mais moi, au bout de 10, je serais...
Non, mais tu
j'aurais pété les plombs bien avant, quoi.
Moi, au bout du premier...
Ouais, non, mais...
non mais je le dis tout de suite, en toute sincérité, je veux dire, le cambriolage, vous savez, c'est terrible parce que vous êtes chez vous, vous savez, c'est psychologique. Au quotidien, on subit suffisamment de merde, de stress, et quand on rentre chez nous, on a envie d'avoir un petit havre de paix à nous, où on maîtrise tout, vous savez, on maîtrise notre espace, on sait où et quoi, on vit à notre rythme, etc. Et on n'aime pas les intrusions, et parce qu'on a envie d'être le maître, quoi. On a envie d'être notre petit souverain à nous. C'est parfaitement humain, c'est tout le sens de la propriété d'ailleurs. Il faut protéger le sens de la propriété. La propriété populaire, j'entends. Et quand t'as une salope de rat qui vient chez toi, dans ton intimité, pour te piller, t'as plus l'impression d'être chez toi. Quelque part, t'as l'impression d'être mis à la rue. C'est ça le problème. T'as l'impression qu'il n'y a pas de différence entre un hall de gare et ta maison. Et c'est très stressant. Bon, sauf si vous avez un vieux de la vieille, etc., vous êtes beaucoup plus dur que ça, mais pour beaucoup de gens, c'est très déstabilisant. Et surtout pour les femmes, par exemple. Parce que les femmes sont par nature inquiètes, vous savez, pour leur sécurité physique. Alors soudainement, s'il y a un intrus qui rend... Vous imaginez, enfin là, les filles font des tas de films, etc. À raison, d'ailleurs, à raison, hein, à raison. Mais même pour les hommes, je veux dire... Tout d'un coup, ah putain, il y a un rat qui est venu chez vous. Pas dans ce cas précis, pas une fois, pas deux fois, entre 40 et 50 fois en 5 ans.
C'est pas en prison qu'il faut le foutre, le type.
Non, mais
je veux dire, faut une médaille. Je lui donne une médaille d'être aussi patient.
C'est
un moine Shaolin. Hein.
Le fait qu'ils aient osé mettre cet homme en prison 3 semaines. Ça dit tout de cette république, ça dit tout de ces magistrats de merde. Ça dit tout. Pas besoin de roman. Pas besoin de roman. Voilà, ça dit tout. Pour ça, les gens, quand ils s'énervent, ils sont là, ils vont tous gueuler à la préfecture, machin. Ils font des manifestations. Non, allez voir où ça se passe. Allez devant les tribunaux. C'est là que ça se joue. C'est le préfet, ils s'en foutent. Quand il y a un préfet qui merde, ils le changent. Ils en mettent un autre. Ils mettent un autre merdeux aussi merdique que le premier. Et voilà. Et vous avez vu, ça va changer. Mais ça ne change rien, mais bon. Et en plus, les préfectures, c'est des forteresses. Ils ont des cartes CRS dans tous les sens. Ça. Il faut aller voir où ça se passe. Il faut aller voir ceux qui harcèlent vraiment le peuple. J'ai nommé les juges. Voilà. C'est ces gens-là qui font souffrir les gens, qui font souffrir les petites gens. Parce que c'est le bras séculier, quoi.
Surtout quand tu vois les conditions d'application de la légitime défense en France. Enfin, tu rigoles, quoi. Bon, déjà, moi, j'aime bien rappeler ça. La Constitution française a quand même été écrite par Monsieur Debré, voilà. Donc, des rabbins, voilà. Donc, on a une Constitution écrite par des rabbins. Donc, déjà, faut quand même rappeler ça. Mais la légitime défense, avec la condition, faut répondre tout de suite de manière spontanée, avec les moyens proportionnés, faut pas tirer sur l'agresseur qui est en fuite, faut tout le temps chercher la
non,
fuite.
Mais
enfin, bref.
Attends, les moyens proportionnés, mais attends, je prends un coup de couteau.
Mais ça veut tout dire et rien dire en plus, c'est fait exprès.
Non mais je prends un coup de couteau, je redonne un coup de couteau, mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc?
L'agresseur, il va venir avec un moyen supérieur au tien, forcément, c'est l'agresseur, il aura la surprise. Mais c'est bon, c'est réglé, quoi. C'est...
Ah ouais, mais sauf que t'as pas le droit d'avoir d'armes. Tu vois, les mecs diraient...
Oui, oui.
Non, mais tu peux... C'est... D'abord, en plus, vous savez, cette histoire d'équilibre de la représaille, c'est complètement débile. C'est un principe gauchiste. C'est un principe gauchiste, c'est fait pour faire perdre, en fait, les gens qui l'utilisent, d'accord? Le vrai principe... militaire, c'est Clausewitz qui l'a résumé, c'est l'escalade aux extrêmes. D'accord? Donc en gros, le connard qui te fout un point, si tu lui en mets deux à chaque fois, il arrête de te taper. Voilà, ça c'est la science militaire, c'est truc tout simple, ok? La loi dit non, il te file un coup de poing, tu ne peux lui rendre qu'un coup de poing. Non mais attends, le jeu
non,
va
ça
durer.
C'est pas exact. Hein.
À quel niveau?
C'est pas exact. Le problème de la légitime défense, c'est que, comment dire, les gauchistes te font des fantasmes complètement délirants. Je vais prendre l'exemple vécu, puisque en fait il s'agissait d'obtenir un permis de port d'armes. Donc le principe, c'est qu'on a eu les cours justement sur la légitime défense, et la meilleure explication, c'est celle-ci. Tu te trouves devant un grillage. Tu as ton flingue sur toi. Il y a quelqu'un qui te prend une main, qui sort un couteau et qui te dit « si tu n'ouvres pas ce grillage, je te tranche un doigt ». Tu sors ton flingue, tu le fumes, tu es en état de légitime défense. Point barre.
En France, non. Pas en France. Non. Tu
à
peux
partir
pas...
du moment où ton intégrité physique est en jeu...
Non, pas en France. Pas en France. Les magistrats donneront jamais ça. Ils te diront jamais, monsieur, il a voulu vous couper un doigt, vous l'avez assassiné. Non, jamais.
Le truc, c'est que, de toute façon, il y a les lois.
Non, mais je dis pas.
Le papier avec le texte dessus, et puis t'as la réalité derrière, tu vois. Et
non,
donc la réalité, c'est que la politique, c'est aussi des vrais gens derrière, tu vois. Et
diabolique,
ils interprètent comme ils veulent.
Diabolique, je dis pas ce que tu dis, on te l'a pas dit. Je dis pas ça. Je te dis que les magistrats, face au cas que tu énonces, je peux te dire, tu vas en tôle. Tu vas en prison. Ils ne diront pas, il a essayé de nuire à mon intégrité physique, tu vois. C'est-à-dire que les mecs diront que il t'a planté, tu vois, il t'a foutu un coup dans le ventre, tu lui as tiré dedans, là, les mecs, ils vont te laisser filer. Mais le mec, il t'a coupé un bout de doigt, parce que tu peux... Si le mec, il te chlasse un bout de doigt, ok, il te chlasse la main, toi, tu peux dire, attendez, mais ouais, il commence par la main, mais le deuxième coup, il était pour où? Pour le foie? Pour le cœur? Moi, je suis pas devin, moi, j'ai réagi tout de suite. Les mecs, ils vont dire, non, non, monsieur. Vous avez une balafre à la main? Oui, mais ça veut pas dire qu'il allait vous tuer. Tu vois? On a, c'est des cas comme ça à répétition dans la grande presse. Tu peux les lire tous les jours. Pas tous les jours, mais toutes les semaines, au moins. Tu vois. Plein de mecs comme ça, tu vois. Alors, et même des cas qui sont pourtant constitués au plan de légitime défense, tu vois, des trucs qui font même qui devraient faire autorité et où les mecs se font condamner. C'est en fait, tu vois, le problème est le suivant. La loi dit certaines choses, comme le dit bien Perrault, et ensuite tu tombes sur un magistrat, et le magistrat, c'est pas un robot. J'espère qu'on remplacera un jour les magistrats par des robots, mais ce sont pas des robots. Et tu vas tomber sur des mecs, ils ont leur idée bien précise de ce qu'est la légitime défense, tu vois. Déjà, si t'es un propriétaire, et que l'autre est comme dans ce cas d'école, un gitan, si t'es un magistrat d'extrême-gauche, et permettez-moi de rappeler qu'il y a quand même 800 magistrats sur 8000 en France qui appartiennent au syndicat de la magistrature, qui est une organisation trotskiste révolutionnaire, tu n'es pas à égalité. D'un côté, le propriétaire, de par son statut social, on dit de façon systémique aujourd'hui, est un exploiteur. En face, le nomade en question, c'est un exploité. C'est quelqu'un qui n'a pas accès à la propriété, il est exploité. Et c'est pire parce que c'est motivé racialement, en raison de son origine ethnique. Hein. Parce que c'est un Rom, ou un Tzigane, peu importe. Donc quand il y a un clash entre un Tzigane et un propriétaire terrien, dans la tête d'un magistrat d'extrême gauche, c'est l'ancien régime contre la démocratie. Donc le mec, le magistrat en question va pas forcément lâcher dans la nature notre client, donc le tzigane en question, mais il va dire, oui, mais vous savez, ce jeune-là, et d'ailleurs ses avocats se feront fort de le dire, ce jeune-là, vous savez, il n'a pas eu une enfance facile. Déjà, il n'a pas connu son père. Il n'a pas connu son père et il a une famille très élargie. Et il a vagabondé beaucoup, etc. C'est plutôt le fruit de son milieu que quelqu'un de profondément mauvais, voilà. À côté
maman
de ça...
Buvait, papa était enceint.
Eh ouais, non, mais ils te le sortent. Puis à côté, on va dire, ah oui, monsieur le propriétaire, etc. Oui, c'est bien sûr, évidemment, c'est malheureux que monsieur soit fait voler, etc. Mais enfin, bon, écoutez... D'un côté, on a des gens qui essayent de manger. De l'autre, on a des propriétaires qui, certes, ont des difficultés économiques, mais dont on ne peut pas quand même comparer les conditions de vie. Il t'encule, il t'encule, il t'encule, il t'encule. À la fin, Toto, le mec, toi, le tzigane qui voulait te planter dans le dos, le mec, il prend 2 ans, il fait 6 mois, il est ressorti. Toi, tu vois, t'es pas sorti avec toutes ces histoires d'assurance, etc., parce que t'as osé, tu vois, le... c'est la merde, tu vois. Alors déjà que les mecs sont sur le bord du suicide en permanence, là, c'est fini. Donc ça que je veux dire que, oui, bien sûr, quand tu vas faire des trucs pour le pour acquérir une arme, on va t'apprendre, voilà, la légitime défense, tel scénario, de... mais c'est pas comme ça que ça se passe dans un tribunal. Dans un tribunal, ça se passe pas en fonction de ce qui est écrit dans la loi. Le magistrat a toute latitude pour interpréter la loi. Et c'est comme ça que tu te fais enculer. Et le mec...
Même quand tu prends une arme, on ne te parle pas de légitime défense. Quand tu fais une arme chez toi, c'est que tu es chasseur ou tireur sportif. En aucun moment, il n'est question de légitime défense. Tu as droit d'utiliser ton arme pour aller chasser ou pour aller au centre,
ce n'est pas... Oui.
À aucun moment on te parle du film de défense. Ça même si effectivement tu es dans le cas de la victime de défense, pour le coup, comme ce type là tu as derrière les juges qui décident que tu es quand même, voilà, un salopard de blanc privilégié, et donc par rapport à une victime éternelle qui est un tzigane, tu mérites châtiment pour rééquilibrer les choses. Là, c'est l'arasement républicain.
Oui, pour réparer le monde.
Oui, Tikkun Olam.
Alors non, mais c'est vraiment un drame, parce que nous avons des paysans déjà qui sont économiquement exsangues. Pas tous, mais beaucoup. En tout cas, ils ont tellement de problèmes que... Et maintenant, ils se font carrément harceler par des bandes vagabondes de tziganes, quoi. Comment voulez-vous que la montée des milices ne s'exerce pas ? Là, je parle plutôt sur le moyen-long terme, hein, je parle pas sur le court terme. Mais c'est inévitable. Regardez l'état de la France. Je parle juste de la France, parce que c'est le cas dont on parle. Hein. Mais regardez ce que c'est la France. Les mecs vous harcèlent. Vous payez pas vos impôts, etc. Les mecs, ils sont partout. Ils vous contrôlent sur les routes. Vous avez pas le droit de fumer, etc. Elles râlent de rien. Vous avez des bandes de tziganes qui arrivent là, comme elles veulent. Ça pille, ça repille, ça repille. Vous appelez les flics, il n'y a personne qui bouge, tout le monde s'en branle. Quand finalement, il y a un blanc qui s'énerve, il sort sa 12, il plombe un de ses fils de pute. Là, c'est là que ça se met en branle. C'est-à-dire que c'est là que la justice rentre en action, c'est parce qu'on a osé esquinter une de ses sourasses. C'est là que ça devient une affaire médiatique. Et c'est là qu'il y a des gens qui se mobilisent pour essayer de faire libérer le paysan. Mais c'est toujours en défense. On est toujours en défense. Alors que ces gens-là sont dans leur bon droit, quoi. Voilà où on en est. La question de la légitime défense, pour moi, elle est cruciale, quoi. Ça va devenir de plus en plus crucial. Il y a tellement de métèques en France, il y a tellement d'enragés. Les Blancs sont de plus en plus menacés. C'est crucial, c'est un sujet crucial. Comme le port d'armes, d'ailleurs, qui n'existe pas en France, bien sûr. Mais comme le port d'armes, quoi.
Ouais. On voit d'ailleurs les efforts que font précisément le Parti démocrate en Virginie actuellement aux États-Unis pour désarmer les citoyens. Et là, il y a une réaction, comme tu l'as dit, il y a des milices, parce que les milices aux États-Unis ne sont pas interdites, des milices armées qui se lèvent pour s'opposer au projet. Évidemment, on n'en parle pas beaucoup dans la presse européenne.
Bah, ils ont un truc.
C'est pour ça que C'est pour ça qu'un pays qui a une quand même une culture libérale, c'est quand même mieux qu'un pays communiste de merde. Hein,
bah, disons que la constitution des États-Unis n'a pas été rédigée par des rabbins.
Oui, contrairement à la France, oui.
Oui, mais la constitution ne sort pas nulle part, si tu veux, elle sort parce que tu as un pays, tu as des gens qui sont qui ont une tournure d'esprit bien particulière, qui sont méfiants par rapport à l'État. La France n'est pas méfiante par... Enfin, les Français même ne sont pas méfiants par rapport à l'État, parce que les Français sont des communistes. Hein,
c'est ça, ouais.
Ils ne sont pas en parti communiste, ce sont des communistes. Ils veulent que l'État gère tout pour eux, qu'il y ait un État...
Ah bah l'État voilà, papa-maman, hein, l'État papa-maman.
L'État papa, l'État maman, l'État nounou, l'État qui vient te torcher le cul quand tu es mort.
Ouais, mais en plus, je crois que c'est même pire que communiste comme État, parce que dans le fond... Je ne connais pas leur histoire dans le détail, mais j'ai quand même un doute, si l'on venait à me raconter qu'à l'époque des soviets en Russie, l'État favorisait tout étranger, tout nomade, toute personne étant en marge de la société contrôlée par les soviets. Je doute que les soviets auraient protégé ces gens-là s'ils attaquaient le peuple dont le soviet était responsable.
Alors, or, si, puisque ce sont les juifs.
C'est-à-dire
Les soviets, c'est un système érigé par et pour les juifs pour précisément permettre à des nomades agressifs de détrousser le paysan russe. Hein. C'est le principe du bolchevisme.
D'accord, mais une fois que le soviétisme a été...
Ah oui, une fois que les juifs au pouvoir, non, les juifs n'avaient pas du tout envie qu'on pique dans leur caisse. Non, mais ça, c'est tout à fait clair.
Enfin, vous m'avez compris, moi je pense que les soviets, du moins, c'est après la Seconde Guerre mondiale, j'ai un peu dur à imaginer que les soviets auraient favorisé des agresseurs qu'ils ne contrôlaient pas. Et c'est ce que fait la République française, c'est ce que fait l'Union européenne, c'est ce que font les États européens de l'Ouest, en tout cas.
Les États occidentaux, les démocraties ne sont fortes et dures et autoritaires qu'avec les masses blanches, pour les racketter.
Ce que je peux vous prédire, c'est que des cas de légitime défense en France et partout en Europe, il va y en avoir une chière, que c'est pas prêt de s'arrêter, et qu'à un certain moment, le législateur aura deux options. Soit on remplira les prisons de toutes les personnes qui ont effectivement résisté à une agression, ce qui... à la vitesse où ça risque de se produire, va poser les grands problèmes de place, ou alors ils seront obligés de changer la loi. Et ils seront obligés de changer la loi.
Alors en France...
C'est ce qu'ils font déjà, puisque dans certains pays, on a déjà décidé que lorsque vous étiez condamné à X mois de prison ferme suivant le pays, vous ne faisiez pas la prison ferme de toute façon.
Oui, en France, c'est déjà le cas.
Alors en Belgique aussi. Oui,
pour en revenir à ce que je disais par rapport à la différence entre les peuples un petit peu plus qui ont l'esprit un peu libre et les peuples comme les Français, hein, comme le peuple français, c'est que un peuple va être, d'un côté va avoir tendance à faire des milices, hein, s'organiser, faire des trucs, l'autre va attendre que ce soit l'État qui fasse.
Oui, un ordre de la préfecture. Vous avez le droit de vous défendre, c'est avec un polycopier. Oui, c'est ça. Oui.
Voilà, oui, c'est-à-dire que tu as le droit, la préfecture te dit que donc si tu...
Affichage polycopier à la mairie, tu vois, décret préfectoral, voilà, personne ne le lit et personne ne réagit, tu vois.
Voilà, si tu fournis à la préfecture un otage, tu pourras avoir la droit... de ta famille, hein.
Ouais.
Si tu fournis un otage de ta famille, tu pourras avoir le droit... d'avoir une arme pour ne pas te défendre. Hein, donc si tu te défends, tu iras en prison. Mais si tu ne te défends pas, tu pourras l'avoir, mais tu auras un membre de ta famille en otage. C'est un petit peu le principe. Hein.
Oui, c'est le principe. Voilà.
Oui, enfin, je précise quand même qu'en France, en ce moment, il y a énormément de personnes qui s'arment de manière totalement illégale, et j'insiste dessus, en tout cas c'est mon point de vue, parfaitement à raison, parce que il faut bien se rendre compte que pour l'instant, on en est à quelques bandes qui se contentent simplement d'essayer de te piquer de l'essence ou du diesel. Ça va aller en s'amplifiant. Et je crois que c'était début 1900, on avait ce qu'on appelait les chauffeurs du Nord, c'est-à-dire des gens qui rentraient chez vous, qui vous foutaient les pieds dans le feu pour vous faire parler à savoir où était votre pognon, ça risque de s'amplifier fortement.
Bah, moi, je suis assez étonné qu'on n'ait pas des vagues de kidnapping, en fait, de la part du califat. C'est, je suis assez surpris que ça ne soit pas encore
parce
le cas.
Parce que l'argent coule à flot, non ? Parce que le goy est bien...
Ouais.
On le sait bien, quoi. Il arrive à cracher du fric, hein. Les blancs
vous
arrivent
avez
à cracher
du fric pour lis, je un...
Mais quand il n'a pas assez, oui, il y aura ces actions-là. C'est obligé que ça arrive.
Lisez le truc. Enfin, moi, il y avait une donnée qui m'a frappé. Dans les années 70, le niveau de vie par habitant, le PIB par habitant, entre la France et la Suisse, était identique. C'est-à-dire que la Suisse et la France étaient aussi riches par tête de pipe dans les années 70. Aujourd'hui, c'est du simple double. C'est-à-dire que les Suisses sont par tête deux fois plus riches que les Français. Pourquoi ? Parce que les Français crachent comme des dingues au bassinet pour payer le communisme national, qui bénéficie quasi exclusivement, en plus des parasites et des rentiers, aux métèques. Le jour où la pompe ou la poule aux œufs d'or ne crache plus, les mecs vont aller chercher le blé eux-mêmes. Hein. Ils vont aller le chercher eux-mêmes. Et vous avez qu'à remarquer, ils sont sur tout le territoire. Donc les gars vont arriver, ils vont arriver dans des termes d'équipés sauvages, 3-4 véhicules, des haches, des fusils, des... Et ça va pas être joli, hein. Je veux dire, ça va être moche. Ça va être très très moche. Moi, je dis aux gens,
Mais
préparez-vous.
Je te conseille de te rapprocher près la gendarmerie de Genève, qui commence à en avoir particulièrement marre d'avoir tous les bougnoules français
qui
viennent faire leur shopping en Helvétie.
Ah ouais, non, là-bas, c'est la fête. On a eu des courriers là-dessus, ouais. Non, mais c'est complètement terrible, quoi. C'est terrible, 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 terrible. Le projet de la France, c'est de coloniser la Suisse, maintenant. Coloniser la Suisse. Qui veut rajouter quelque chose sur cette...
Suisse avant l'Allemagne.
Oui. Qui veut parler de... rajouter quelque chose sur ces campagnes qui sont... alors, pas victime des mêmes problèmes, mais victime quand même de certaines difficultés comme celle-là. Dans l'indifférence générale, je veux dire. Et on a, sur cette histoire d'assassinat, le RN, par exemple, n'a pas bougé. Très révélateur. Très révélateur. Y a pas eu.
Je crois que Marine Le Pen faisait du cheval.
Ah, du poney, peut-être, oui, effectivement. Poney ou séjour Thaïlande, je ne sais pas. Mais un des deux, quoi. Enfin bon, bref, en tout cas, j'espère que... Bon, ça va être affreux, parce que... Il faut bien comprendre ça, hein, il a plombé en toute légitimité, parce qu'agressé et volé par une espèce de sous-race, le paysan en question va devoir raquer les assurances, le tribunal, appel, contre-appel, le mec va devenir fou, il devait être probablement suicidaire au départ, ça va donner des drames pas permis, tout ça pourquoi ? Parce que cet état de salope... permet à ces sous-races de parader partout en France, je veux dire, comme en terrain conquis, hein, c'est ville ouverte. Hein. Les bandes de tziganes venant d'Europe entière ratissent les campagnes françaises, les gendarmes, ils font des tours en trafic, les mecs disent on agit, quoi. Il y a un problème grave. Donc, à un moment donné... La menace sera neutralisée, je veux dire, là c'est fatal, quoi, je veux dire, ça se terminera comme ça, les gens vont réagir. Donc je sais pas, il y a des priorités qui doivent être fixées, elles sont pas fixées, il faudra bien les fixer, quoi. Par des hommes, j'entends. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou bien on se sépare là-dessus ?
D'accord. On pourra en parler des heures, hein, ce truc, parce qu'on peut disséquer un petit peu les raisons, etc. Mais il est un fait que, dans les grosses lignes, l'État a fait des lois pour favoriser l'agresseur, qui lui est organisé, contrairement à l'agressé qui ne l'est jamais.
C'est ça.
Et par exemple, pour imaginer l'affaire de l'agriculteur en question, imaginez que le type ait pris ses couilles en main. Il désintègre un ou deux des gens du voyage, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, ces merdes, et il prend sur lui sa camionnette, tape, et il va acheter la viande moisir quelque part dans la fossée à quelques kilomètres. Immédiatement, la réaction va venir du camp des gens du voyage qui vont aller se plaindre que leur mari, fils et tout ce qu'on veut, beau-frère, était parti voler à telle ferme. Le type, il est foutu. Par contre, on ne reprochera pas aux gitans d'avoir voulu voler. C'est là où est le problème. Et ça vaut pour toutes les catégories organisées, que ce soit des nègres migrants, des bougnoules installés ou des gens du voyage. Et ça, c'est uniquement la législation qui organise cela. Donc, et là, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, nos États européens de l'Ouest nous ont déclaré la guerre. Et vous savez, en plus, si on en venait au mano à mano un jour ou l'autre, comme vous le supposez, ce qui me semble exact, notre pire ennemi, ce ne sera même pas encore le Gugus qui sort du camp de gitan, ce ne sera même pas le bougnoule en tant que tel ou le nègre. Non, notre pire ennemi, ça va être nos voisins blancs qui vont se chier dessus, qui ne voudra pas vous donner un coup de main et même qui vous dénoncera.
Tout à fait.
Fort possible. Mais je pense que vraiment l'ennemi numéro un en France, pour le blanc, c'est l'État.
Ouais, en ce moment, oui.
C'est pas l'arabe, c'est pas le noir, c'est même pas le juif, c'est l'État.
Bah, l'État,
l'État, c'est
déjà.
Hein,
bah, oui, l'État, c'est.
Mais je disais cela parce que il y a peu, j'ai eu une petite anecdote. Je discutais avec des voisins, justement, qui se plaignaient de l'excès d'immigration, etc., etc. Et il y a une dame d'un certain âge, une boumeuse, qui est intervenu en disant qu'on se trompait complètement, que ces gens sont des malheureux, etc., etc. C'est elle qui trahira le voisin qui se défend.
Bien sûr.
Ah oui, oui, bien sûr. C'est évident que si tu as des gens comme ça, ils iront te dénoncer. Hein.
Ah oui, mais il y en a partout, c'est ça le pire. Et ce que Gandalf disait tout à l'heure, si je ne m'abuse, à propos du régime télévisuel, qui fait qu'il y a des tas de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui sont un peu en dehors du coup, qui ne sont pas encore atteints, qui le seront, hein. Mais quand ?
À noter que le paysan en question, Jean-Louis, était membre d'un dispositif déjà quasi-milicien, en fait, de surveillance. Ils n'étaient pas armés, mais ils surveillaient le territoire en lien avec la gendarmerie. Donc, l'état de siège était déjà présent. Et notez bien, il est dans la Marne. Ah oui, il est dans une zone qui n'est pas trop loin de Paris. Attention, j'ai pas dit que c'était à côté. Hein. Mais c'est pas trop loin. Donc, pour des bases opérationnelles, ça permet de lancer des raids. Les mecs sont victimes de raids. C'est des raids organisés. Faut pas s'imaginer des mecs qui tentent des trucs. Ce sont des groupes à caractère quasiment armé. Comment voulez-vous neutraliser des choses comme ça avec des moyens non létaux, sans organisation, etc. Et les gendarmes ? Les gendarmes, ils font des patrouilles, etc. Mais ils ont toujours un temps de retard. Vous avez vu les communes en question ? La gendarmerie la plus proche est à 20 minutes.
20 minutes, 20 le mec, minutes, il est déjà cool. Bien loin.
Mais 20 minutes, le mec, il t'égorge, etc. Il a foutu le camp depuis 15 minutes avant même que les mecs arrivent, si jamais ils ont été alertés. Putain, mais... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et plus il y aura de métèques en France, je veux dire, toutes les couleurs, hein, plus ça sera comme ça. Et après, les mecs sont là, ouais, mais quand même, là, c'est pour ça qu'il faudra rompre, quoi. Il faudra rompre. Parce que les magistrats, il ne faut pas croire, ils ne vont pas adopter. Ah oui, mais finalement, les mecs vont devenir plus souples, ils vont comprendre les difficultés du monde paysan ou du monde rural. Ils n'en ont rien à branler, ils vont être encore plus gauchistes, encore plus forcenés. Ça changera jamais, parce que pourquoi ces tribunaux ne sont pas installés dans les campagnes ? Ces tribunaux sont toujours installés dans les sous-préfectures ou les préfectures, c'est-à-dire la plus grosse ville du département, donc en plein milieu de la décadence et de la décomposition. Donc les types, ils appliquent les standards, non seulement qu'ils ont appris à l'école, mais en plus ils sont dans le bain. Hein, parce que le plus clair du temps, ils s'occupent de dealers, de dealers nègres, de dealers arabes, etc. Donc les mecs vont pas faire preuve d'une dureté particulière à l'égard de cette vermine. Donc voilà, le problème est entier. Et voilà, hein, il faudra prendre le taureau par les cornes. Hein. Il va falloir que les Gaulois, ils deviennent méchants.
Ah, je me souviens de quelque chose qui m'avait frappé il y a des années de cela. Je ne sais pas si c'est toujours d'application, mais ça m'étonnerait que ça ne le soit pas. Mais en France, pour un peu calmer les jeunes de cité, là, dans les villes, la SNCF, ou l'État du moins, avait organisé un système qui permettait à ces jeunes gens de se déplacer, de faire des voyages en train, pratiquement pour rien ou presque. Moi, ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, bon, ben ça, c'est un petit peu amener les voyous à aller étendre leur champ d'action, et surtout dans les campagnes, dans les villages, etc. Je ne sais pas, quelqu'un sait-il si c'est toujours d'application ?
Je sais pas.
En tout cas, les couillons qui auraient dû en profiter, apparemment, sont trop cons que pour l'avoir fait. Mais bon.
Moi, ce que
ils ont quand même fait du dégât dans les trains.
Moi, ce que je retiendrai, si vous voulez, c'est le principe de l'empirisme organisateur qu'on a retrouvé dans les tôles américaines dès lors qu'ils ont déségrégué dans les années 60, au titre de l'antiracisme, encore une fois. Donc, en fait, avant la ségrégation, les prisons étaient strictement compartimentées selon les races. Alors, les gens, enfin, les gauchistes, les démocrates, les marxistes et les juifs, aux États-Unis, on pensait qu'en déségrégant, tout d'un coup, tout le monde allait commencer à se mettre dans les prisons. Non, on a plus séparé les gens en fonction de leur race, c'est bien. Ils se sont séparés d'eux-mêmes, physiquement. Donc en fait, il n'y a plus les murs, mais ça ne change rien, en pratique. Et les Blancs ont dû s'organiser. Les Blancs sont devenus les gens les plus dangereux de tout le système carcéral américain. Pourquoi ? Ils sont en minorité. Donc les mecs sont extrêmement létaux. Extrêmement létaux. Ils sont organisés, c'est une discipline militaire. Et discipline militaire, ça veut dire que les soldats ne peuvent pas se désister. Je vous invite à travailler sur le sujet. Donc, en fait, le problème pour le système, ça va être le suivant. C'est-à-dire que le système sait très bien que quand les Blancs commencent à s'organiser et à sortir de leur connerie mentale pour retomber sur Terre, et à devenir méchant, quand je dis le système, c'est surtout les juifs savent que ça va dans une très, très, très mauvaise direction pour leurs affaires. C'est ce qui va se passer. Il y a des gens qui disent, ouais, non, mais quand même, les gens sont glandus. Oui, les gens sont glandus, ils sont glandus. Mais au bout d'un moment, quand t'as le dos au mur, tu ne peux plus faire autrement. Les choses vont évoluer. Donc voilà, on a des cas, on a des précédents. Il y a des précédents. Et cet état-là, comment dire ? Cette République n'arrête pas de parler. Ça presse. Elle ronfle. Il n'y a pas d'action. Et, je veux dire, la philosophie même de cette République leur interdit même d'agir sur les causes. Mais même sur les symptômes, ils ne peuvent pas. Ça va pas changer, ça va s'empirer. Donc voilà, il va falloir commencer à prendre le taureau par les cornes. C'est tout. Donc je suis assez d'accord avec ce que dit Derek, avec ce qu'il dit par rapport à... C'est une disposition d'esprit. Si vous attendez quelque chose de l'État, c'est-à-dire des flics et de la magistrature, vous êtes mort. Donc ça passera par le peuple. Même pas le peuple en général, ça va passer par des gens qui vont prendre leurs responsabilités. Voilà, c'est ce que je veux dire. Les bougnoules prennent leurs responsabilités, hein, en tant que truands organisés, prennent leurs responsabilités. Même les nègres prennent leurs responsabilités. Les juifs prennent leurs responsabilités. Les roms prennent leurs responsabilités. Pour l'instant, il n'y a que les blancs qui prennent pas leurs responsabilités. Hein. Il n'y a que les blancs qui jouent au couillon, mais les droits individuels, on n'est pas un groupe. Si vous êtes un groupe, le groupe le plus chassé qui existe en France, c'est les blancs. C'est vous qui êtes traqués, c'est vous qu'on raquette. Hein, le fisc vous raquette, les bougnoules vous raquettent. au coin de la rue. Hein. Donc, va peut-être falloir commencer un petit peu à changer de paradigme aussi. Hein. Toujours attendre que la loi fasse son effet, on ne sait pas comment, que des magistrats soient bien disposés, bonne chance, et que des flics se bougent le cul alors qu'ils ont, ils en ont strictement rien à foutre, ils préfèrent vous taxer au coin des rues. Non, ça ne va pas fonctionner. Quelqu'un d'autre ou on se sépare là-dessus ?
J'ai une intervention culinaire.
Ah, j'espère qu'elle est bonne, ton intervention culinaire. Diabolix ?
Alors, en fait, c'est très
simple. Rôtisserie peut-être, on ne sait pas.
En fait, voilà. Tous les collégiens vont être amenés à faire la même chose. Donc, je leur conseille, le jour J, de préparer d'excellents sandwichs. Jambon cru, morbier, tripes, andouillettes.
Ah, tu m'intéresses,
mais vraiment
ouais,
d'excellents sandwichs. Vraiment d'excellents sandwichs. Si vous n'aimez pas les sandwichs, si vous préférez l'hamburger, c'est minimum 8 Big Mac avec supplément de bacon. À ce moment-là, vous vous rendez dans votre établissement, vous voyez le professeur, on commence à atténuer les lumières, on lance la projection de ce merveilleux film qui fait chier tout le monde, et j'aime autant vous dire que vous allez vous régaler en voyant nuit et brouillard.
Putain, il va falloir qu'on libère des établissements scolaires avant de pouvoir le faire, ça, mon cher Diabolix.
Va y avoir... l'ai fait.
Ah, tu l'as. Oh.
Et je te jure que c'est les sandwichs les plus savoureux que j'ai eu l'occasion de manger dans ma vie.
Nart ou Nebel. À la semaine prochaine, chers amis.
À la semaine prochaine.
À plus.